solo esta vez. Oh, 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 oh,
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Focus Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
À l'occasion de la 34e édition du mois de l'histoire des Noirs, CUTFM vous présente une édition spéciale chaque dimanche de 11h à 13h, heure de Toronto, depuis le studio virtuel de Popourri Show. Chaque dimanche, à CUTFM vous ouvre ses archives sonores. Vous pourrez entendre les défricheurs de savoir et de nombreux invités au reportage, les grandes voix de la littérature africaine et antillaise. Gagner des cadeaux en participant à nos jeux concours. Nous rendrons hommage aux oubliés de l'histoire et aussi à ceux et celles qui militent pour la justice sociale. Après les manifestations « La vie des Noirs compte » en 2020, qui avait déclenché une profonde vague de colère à travers le pays, où en sommes-nous aujourd'hui ? Chaque dimanche, les inventeurs et savants noirs, occultés par l'histoire, racontent leur parcours, leurs émotions, les réussites inspirantes qui ont structuré leur existence. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, du 7 au 28 février 2021. Célébrons la 19e édition du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau, sous le thème « Une lutte aux mille visages » et la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, un événement qui célèbre la richesse culturelle, artistique, culinaire des communautés noires et afrodescendantes. Cette année, il n'y a pas d'excuse pour personne, car toutes les activités sont gratuites et se déroulent uniquement en ligne. Retrouvez tous les liens de nos partenaires et invités sur popourishow.com. Du 7 au 28 février, une lutte aux mille visages. Des émissions présentées par CUT-FM en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, France Inter, la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville du Québec, le mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Du 7 au 28 février, où que vous soyez sur la planète, soyez au rendez-vous sur CUT 89,5 FM ou découvrez la programmation complète du mois sur popourishow.com. Toute l'équipe de la radio vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs.
L'Afrique est le continent le plus riche de la planète à travers l'histoire de la civilisation, ses talents, son extraordinaire jeunesse et sa capacité à se relever. L'histoire de l'Afrique, c'est celle de la création de toute vie sur Terre, des reines, des rois et des empires. C'est aussi la colonisation, le déracinement et l'assimilation. L'Afrique rappelle tous ses enfants. Son cri est si puissant qu'il pénètre la planète entière. Désormais, l'histoire de l'Afrique s'écrit avec toutes ses filles et tous ses fils africains et afrodescendants.
Vice Touquet 2021,
dimanche 14 février 2021, émission spéciale du mois de l'histoire des Noirs au rythme du carnaval annuel en Haïti, lancé aujourd'hui et durera jusqu'au 16 février, cela vous intéresse, direction Port de Paix sur le boulevard Trois-Rivières en Haïti. L'ingénieur du son DJ Dovera, animation, production, Eric Kader avec vous sur www.cut.fm et aujourd'hui exceptionnellement de 11h à 14h et cela peut-être tout au long du mois de février, nous vous donnons rendez-vous, madame, monsieur, jusqu'à 14h aujourd'hui. En ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, notre stagiaire nous a accompagnés pour vous composer un petit message. Dans notre monde, tout change, mais une chose reste certaine. Vous resterez toujours nos auditeurs favoris au-delà des mots, au-delà du temps et au-delà de la distance. Bonne Saint-Valentin en toute amitié. Oh, c'est très beau, hein? Merci, JB. Vous êtes nombreux à avoir agi à notre émission de lancement de dimanche dernier, du Pakistan au Vietnam, l'île Maurice, la ville de Québec et Montréal, bien sûr, Paris, Rennes, Bordeaux, Port-au-Prince. Et oui, d'ailleurs, Port-au-Prince qui est dans la tourmente en ce moment et plus près de chez nous, c'est Sainte-Catherine, Hamilton et bien sûr la grande région de Toronto. Merci, merci de votre fidélité. Et grâce à la généreuse contribution d'une auditrice qui veut rester anonyme, la radio a le plaisir de vous offrir une heure supplémentaire afin de célébrer comme il se doit le mois de l'histoire des Noirs. Et tout au long du mois, nous vous proposons de découvrir ces personnalités afro-canadiennes qui ont façonné l'histoire du Canada à leur manière, mais aussi reconnaître la contribution des personnes afro-descendants méconnues et sous-représentées sur la scène locale et nationale. Je vous invite personnellement à prendre part aux célébrations, aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs et de leur communauté. Cette année, le gouvernement fédéral a choisi le thème suivant. L'avenir, c'est maintenant. Pour tout de suite, le menu de l'émission et le buzz de la semaine. Et oui, ce dimanche a des invités inspirants. La Fondation Sylvie Nilindor, un organisme à Toronto voué à l'intégration des jeunes noirs, célèbre en cette année son 10e anniversaire. Le fondateur et président, Ami Clé Fontaine, exprimait récemment sa gratitude envers ses mécènes, commanditaires, supporters, bénévoles, partenaires médiatiques, partenaires communautaires, conférenciers. Et il dit, je cite, « Cela a toujours été un effort d'équipe et nous considérons que tous ces individus et ces groupes font partie de notre incroyable équipe. » D'ailleurs, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la Fondation Sylvie Nilindor vous propose une séance rendant hommage à Viola Desmond, femme noire reconnue pour son activisme contre la ségrégation raciale. Cette séance sera en mode virtuel via la page Facebook de la Fondation Sylvie Nilindor. Rendez-vous le samedi 20 février à 19h. Voilà une belle occasion pour souligner la contribution de cette femme, Viola Desmond, pour ses 75 ans de résistance, mais aussi les 25 ans du mois de l'histoire des Noirs. En effet, il y a 25 ans, le gouvernement du Canada instaurait au pays le mois de l'histoire des Noirs, un tournant largement attribuable aux efforts de l'honorable Jean Augustine, la première femme noire à être nommée au cabinet fédéral. Et puis, ce sera l'occasion de célébrer les 10 ans de la Fondation Sylvie Nilindor. Parmi les invités panélistes qui ont confirmé leur présence pour la séance du samedi 20 février, l'avocat Joël Étienne, docteur Rosemary Sadlieu, ancienne présidente de la Société de l'Histoire des Noirs de l'Ontario, docteur Dieufait Bello, Jean-Marie Vianney, PDG de M9 Media, Ami Clé Fontaine sera le facilitateur. Comme vous le savez, il est le président de la Fondation de Sylvie Nilindor. Et puis, il y aura un invité assez formidable. Je trouve qu'il mérite d'être connu à l'émission. Et il sera d'ailleurs notre invité un peu plus tard, Franz Benjamin, un homme engagé sur la scène publique. Il est député de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec. Il sera donc à nos micros un peu plus tard. Malgré la pandémie, les membres de la communauté noire partout au Canada s'unissent pour nous présenter une programmation exceptionnelle. La province de Québec est au rendez-vous. Ça fait 30 ans que le mois de l'histoire des Noirs est célébré à Montréal sous l'égide de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, tandis qu'à Québec, cela fait 6 ans déjà. La table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec nous émerveille encore une fois cette année avec une programmation en ligne, gratuite et ouverte au public. Et oui, retrouvez toute la programmation sur histoiredesnoirsquebec.com. Et aujourd'hui, Popourri Show a le grand plaisir de recevoir M. Saliou Diallo. Il est le vice-président de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Le racisme anti-noir est répandu dans la société canadienne et la fonction publique fédérale n'y échappe pas. Près de 30 000 fonctionnaires actuels et anciens qui s'identifient comme noirs ont déposé un recours collectif contre le gouvernement du Canada il y a quelques mois. Ils se disent victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi. Pensez-vous que cette action va changer la donne? C'est la question que j'aimerais bien poser à mon invitée de la région d'Ottawa-Gatineau, Madame Olive Kamanyana. Elle est présidente de Leadership Politique pour les personnes d'ascendance africaine, un nouvel organisme partenaire du mois des Noirs à Gatineau. Et pour rien au monde, vous ne devez pas manquer cette édition spéciale de Festive Eben et Aurore, un jour nouveau, une lumière nouvelle. C'en est le thème, mettant en vedette plusieurs artistes africains. Le rappeur-poète Yao y sera. Rendez-vous à ne pas manquer, madame, monsieur, ouvert à tout le monde et que vous pourrez suivre sur Zoom le 28 février à 19h. Vous trouverez le lien sur notre site popourishow.com. Cet événement est organisé par Sophie Franc, un organisme communautaire sans but lucratif créé en 2006 par des femmes immigrantes francophones du Niagara en Ontario. Et puis je vous rappelle que nos amis le CREFO vous invitent à sa prochaine conférence qui aura lieu mardi prochain le 16 février à 17h. Le tout se passe en ligne, bien sûr. Le thème de cette conférence, les dimensions socio-langagières des dispositifs scolaires destinés aux jeunes gens du voyage par Eurel Latimier, les docteurs en sciences du langage. Eurel Latimier travaille depuis une quinzaine d'années dans les champs artistiques comme universitaire. La question du langage dans ses dimensions poétiques, esthétiques et politiques. Après de nombreuses années en tant que travailleuse socio-éducative, elle a mené un travail de recherche sur les liens entre production langagière et inégalité sociale au sein de dispositifs scolaires principaux auprès de la population considérée gens du voyage. Elle a interrogé dans sa thèse les mises en discours de l'exclusion et de l'échec scolaire comme production politique de l'assujettissement. L'école républicaine française, dit-elle, construit des dispositifs spécifiques dédiés à une population particulière et fournit une explication culturaliste à des problèmes pédagogiques. En quoi, par qui et pourquoi ces discours, que ce soit historiques, institutionnels et par les concernés eux-mêmes, sur l'école et dans l'école, créent de la différence sociale? Quels sont leurs effets? Elle présentera dans cette conférence les processus langagiers et institutionnels qui construisent la marginalisation scolaire des jeunes voyageurs et les positions subjectives que ces derniers adoptent au sein de la classe. Donc, les dimensions socio-langagières des dispositifs scolaires destinés aux jeunes gens du voyage par Eurel Latimier, docteur en sciences du langage, le mardi 16 février de 17h à 18h30 par vidéoconférence ou Zoom si vous préférez. Vous devez absolument vous inscrire, vous devez vous connecter sur Eventbrite ou encore aller sur le site du CREFO ou popourishow.com. Et puis, je rappelle que Ciné Franco Jeunesse prend l'affiche du 16 février au 3 mars. Les enseignants sont invités à organiser des mini-festivals dans leur classe et les familles peuvent visionner à la maison chacun des 12 films proposés, dont deux avec Omar Sy, dont on a parlé brièvement la semaine dernière. Pour plus d'infos, allez sur le site cinéfranco.com ou sur notre site, vous découvrirez tous les renseignements. Rapidement sur la scène internationale, la chronique de notre collaborateur Maître Peter Biro traite aujourd'hui des sujets brûlants de l'actualité. Les élections de novembre, le coup d'État en Birmanie, Haïti en pleine crise de légitimité. Et oui, le pouvoir veut réformer la vie politique. Il y a eu tentative de coup d'État qui a été déjouée dimanche dernier. Le président Jovenel Moïse a échappé à une tentative d'assassinat, nous dit-on. Le son de cloche de la Maison-Blanche prétend que la validation du calendrier électoral haïtien par le gouvernement américain ne devrait pas être considérée comme étant le soutien politique de l'administration Biden au président Jovenel Moïse. Il s'agit plutôt d'une position à la fois administrative et institutionnelle. Au Québec, l'affaire Camara relance le débat sur le traitement des Noirs par la force policière de Montréal. Accusé à tort, le jeune ingénieur Madami Camara étudie sa prochaine marche à suivre. Malgré les excuses du chef de police de Montréal, plusieurs membres de la communauté noire du Québec ajoutent leur voix à celle des partis de l'opposition et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et réclament en chœur d'une même voix, une enquête indépendante sur cette bavure policière. Certaines universités en Ontario dans la tourmente. La situation est inquiétante pour l'éducation postsecondaire en français. l'annonce de la démission du recteur de l'Université de l'Ontario français, André Roy, puis les nouvelles révélations sur la situation financière délicate de l'Université Laurentienne ont pris par surprise les Franco-Ontariens. Je vous rappelle que l'Université Laurentienne fait face à des défis financiers sans précédent et souhaite se mettre à l'abri de ses créanciers. Le gouvernement ontarien a annoncé la nomination d'un conseiller spécial pour soutenir l'Université Laurentienne de Sudbury. De son côté, l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne dénonce un manque de transparence de la part de l'institution. Certains réclament carrément la démission des membres du conseil d'administration. Les deux parties se livrent depuis quelque temps à un bras de fer alors que les négociations de renouvellement de la convention collective du syndicat piétinent. Un scandale qui secoue la communauté camerounaise à Ottawa et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, tenez-vous bien, y est impliquée. Eh oui, la confiance est-elle brisée au sein de la communauté camerounaise du Canada, de la région de la capitale nationale? Un audit interne qui inclut des manquements graves dans la gestion de financement lié à la COVID-19 recommande le congédiement des responsables de l'association et provoque une enquête d'un important bailleur de fonds. Le président incriminé refuse de démissionner. Il plaide la bonne foi et dénonce un règlement de compte. Tunisie, 5 morts et 25 hospitalisés après la consommation d'alcool frelaté. Toujours en Tunisie, 10 ans de la révolution de Jasmin, la démocratie tunisienne entre fatigue et résilience. De plus en plus de Tunisiens redoutent une remise en cause des acquis de la révolution de Jasmin, 10 ans après son déclenchement. Des milliers de personnes manifestent presque chaque jour pour dénoncer les violences policières. À l'île Maurice, d'autres révélations qualifiées d'extraordinaires embarrassent le gouvernement qui perd ses plumes avec la démission du ministre Nando Boda, grand ténor du parti au pouvoir, ministre des Affaires étrangères. Hier a eu lieu une manifestation monstre réunissant tous les partis d'opposition de l'île Maurice. Martinique, 73 séismes en une semaine. L'activité de la montagne a pelé en hausse. En France, rapidement, réouverture des lieux de culture, les musées toujours dans les starting blocks du gouvernement. Culture Box ou Culture Box, la nouvelle chaîne culturelle du service public en France, lancée le 1er février, fait toujours débat cette semaine. Et dans un instant, j'aimerais rendre un hommage particulier à un artiste québécois que j'apprécie énormément. Hommage à Boule Noire. Le 22 février, je fêterai mes 40 ans sur le sol canadien. Il faisait moins de 35 degrés lors de mon atterrissage à Montréal. Eh ouais, que de chemin parcouru. Un jour, Irène m'a proposé de l'accompagner au concert de Boule Noire. Car elle trouvait que je lui ressemblais un peu, Boule Noire, un artiste québécois, auteur, compositeur, interprète. Ses chansons étaient très populaires dans les années 80. Ah oui, faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Noirs dans le monde du spectacle à Québec ou à Montréal. George Thompson, eh oui, de son vrai nom, l'artiste québécois qui menait un combat contre le cancer est mort vers minuit 20, dans la nuit du dimanche du 26 février 2006 à l'âge de 55 ans. Cet artiste, né à Bedford, au Québec, en 1951, a connu un parcours hors du commun. Depuis le moment où, enfant noir et orphelin, il était une anomalie dans la société québécoise. Il a grandi en orphelinat et dans une multitude de familles d'accueil. Il a grandi à Saint-Jérôme, où il avait commencé à faire de la musique. De 1970 à 1975, il avait travaillé comme musicien ou arrangeur pour de nombreux artistes dont Robert Charlebois, Tony Roman, Claude Dubois, Steve Fisset, François Guy, Donald Lautrec et Michel Pagliaro et Nanette Walkman. Et oui, c'est sous le pseudonyme de Boule Noire qu'il a lancé un premier album en solo au début de l'année 1976. Il a remporté un énorme succès avec les chansons « Aimes-tu la vie » ou « Loin, loin, loin de la ville ». Il a aussi écrit des chansons pour le groupe Toulouse alors que la vague à disco déferlait. En cette journée de la Saint-Valentin, permettez-moi de vous offrir une de mes chansons préférées. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Allez, bonne fête de la Saint-Valentin, aimer d'amour avec Bou Noir sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Incroyable exploit réalisé par le Bénin.
Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble, pour vous, sur France 24.
Restez avec nous, l'Afrique, sur France 24.
Liberté, égalité, actualité.
C'est amusant.
C'est simple.
C'est progressif.
Stimulant.
C'est gratuit.
C'est incroyablement efficace.
TV5 Monde, la chaîne qui donne envie d'apprendre le français. Apprendre et enseigner sur tv5monde.com.
C'est interactif.
CIUT 89.5 Toronto.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
À l'occasion de la 34e édition du mois de l'histoire des Noirs, CUTFM vous présente une édition spéciale chaque dimanche de 11h à 13h, heure de Toronto, depuis le studio virtuel de Popourri Show. Chaque dimanche, CUTFM vous ouvre ses archives sonores. Vous pourrez entendre les défricheurs de savoir et de nombreux invités au reportage, les grandes voix de la littérature africaine et antillaise. Gagner des cadeaux en participant à nos jeux concours. Nous rendrons hommage aux oubliés de l'histoire et aussi à ceux et celles qui militent pour la justice sociale. Après les manifestations « La vie des Noirs compte » en 2020, qui avait déclenché une profonde vague de colère à travers le pays, où en sommes-nous aujourd'hui ? Chaque dimanche, les inventeurs et savants noirs, occultés par l'histoire, racontent leur parcours, leurs émotions, les réussites inspirantes qui ont structuré leur existence. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, du 7 au 28 février 2021, célébrons la 19e édition du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau, sur le thème « Une lutte aux mille visages » et la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, un événement qui célèbre la richesse culturelle, artistique, culinaire des communautés noires et afrodescendantes. Cette année, il n'y a pas d'excuses pour personne, car toutes les activités sont gratuites et se déroulent uniquement en ligne. Retrouvez tous les liens de nos partenaires et invités sur popourrichaud.com. Du 7 au 28 février, une lutte aux mille visages. Des émissions présentées par CUT-FM en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, France Inter, la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville du Québec, le mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Du 7 au 28 février, où que vous soyez sur la planète, soyez au rendez-vous sur CUT 89,5 FM ou découvrez la programmation complète du mois sur popourrichaud.com. Toute l'équipe de la radio vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs.
Le concert de ses 40 ans à la Défense Arena est maintenant disponible dans un coffret Ultimate double CD, double DVD. Le 11 mai 2019, la consécration est là. Un immense public chauffé à bloc, un décor démentiel et la magie peut opérer. Kassav, 40 ans, le concert anniversaire en coffret, deux CD, un DVD concert plus un DVD documentaire. Un concert mythique à savourer maintenant dans votre salon, disponible partout.
Ah, ça c'est pas ça.
Et oui, vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Nous entendons actuellement, bien sûr, un extrait de spectacle de Kassav, 40 ans déjà. Nous avons un coffret pour vous, madame, monsieur, si vous participez à nos émissions spéciales dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs au mois de février et le mois de la francophonie tout au long du mois de mars. Allez, vous pouvez vous inscrire ou si vous souhaitez parrainer une de nos émissions, écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Et qui sait, vous courez la chance de gagner un coffret Cassav 40 ans.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. Mary-Ann Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continue de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
Écoutez Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde depuis, voilà, bientôt 34 ans. Une émission spéciale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, au rythme du carnaval annuel en Haïti, démarré aujourd'hui à Port-de-Paix sur le boulevard Trois-Rivières, cela vous intéresse. Et cela dure jusqu'au 16 février. L'ingénieur du son DJ Dovera Toronto, animation, production, votre serviteur Eric Adair. Vous pouvez nous écouter sur le www.cut.fm ou pour télécharger nos émissions où que vous soyez à travers le monde, c'est popourishow.com. Et le quiz, deuxième quiz du mois de l'histoire des Noirs, je vous rappelle que vous devez répondre correctement à toutes les questions durant tout le mois de février et vous aurez la chance de gagner un t-shirt de la radio. Voici la deuxième question du mois. En 1964, Firmin Monestime est devenu le premier maire noir au Canada. Il fut élu maire de la municipalité de Mattawa en Ontario. Mais de quel pays est-il originaire? La réponse A, Martinique. La réponse B, Guadeloupe. La réponse C, Haïti. La réponse D, Sainte-Lucie. Firmin Monestime, premier maire noir au Canada. Eh oui, il fut élu maire de la municipalité de Mattawa, en Ontario. Mais de quel pays est-il originaire? Martinique, Guadeloupe, Haïti ou Sainte-Lucie? Répondez correctement et vous devez répondre correctement à toutes les questions durant tout le mois de février. Vous aurez la chance de gagner un beau cadeau ou encore un t-shirt de la radio. Envoyez votre réponse à popourri@cut.fm. Bonne chance! Qui est Viola Desmond? Viola Desmond est née en 1914 d'un couple interracial qui a eu 10 enfants. Ses parents étaient très engagés dans la communauté noire d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Devenue enseignante, elle quitte la profession après 2 ans, puis entreprend des études à Montréal à l'école Feel Beauty Culture, une des rares écoles à accepter les étudiants noirs à cette époque. Viola Desmond souhaitait devenir une femme d'affaires pour répondre aux besoins de sa communauté. Après ses études, elle ouvre un salon de beauté qui deviendra un véritable centre de relations pour les Afro-Canadiens. Elle met aussi sur pied une formation d'esthéticienne pour donner de meilleures perspectives aux jeunes femmes noires. C'est en 1946 qu'elle passera à l'histoire alors qu'elle se fait expulser d'un cinéma de New Glasgow. Elle prit place au parterre puisqu'elle ignorait que cet espace était réservé aux Blancs et que les Afro-Canadiens devaient obligatoirement s'asseoir au balcon. Elle demande donc de payer la différence pour garder sa place, mais les employés s'y opposent. Viola Desmond refuse de quitter son siège. La police est appelée en renfort et la traîne à l'extérieur, la blessant à la hanche et au genou. La femme de 32 ans passe la nuit derrière les barreaux, on l'accuse de fraude et elle écope d'une amende de 20 dollars. En lien avec cet incident, elle a perdu divers recours en justice. Malgré ses défaites, ses efforts ont été remarqués. Viola Desmond est décédée à New York en 1965. Le 12 juin 2017, le conseil de la ville de Montréal adopte une motion. Pour la première fois, à La Salle, Ville La Salle, une rue portera le nom d'une femme noire, Viola Irène Desmond. Ayant résidé pendant quelques années à Montréal, elle est reconnue pour son activisme contre la ségrégation raciale. Et dans la métropole, à cette époque, seul un croissant, une place et un parc sont aussi nommés en l'honneur de femmes noires. Et maintenant, je vous invite, madame, monsieur, à passer à notre prochain invité, qui est un des panélistes de la séance du 20 février prochain. Monsieur le député France Benjamin, un homme engagé sur la scène publique. Il est député de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec. Il est président du caucus des élus de l'opposition officielle et porte-parole des dossiers jeunesse. Il a été auparavant commissaire scolaire de la Pointe de Lille de 1998 à 2008, par la suite conseiller de la ville de Montréal, représentant du district Saint-Michel de 2009 à 2018, président du conseil municipal de Montréal de 2013 à 2017. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Il vient de publier son dernier livre, Nuit des Anses Pleines, aux éditions Mémoire d'Encrier. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, accueillons le député France Benjamin. Oui, allô, bonjour. Je pourrais parler à monsieur France Benjamin, s'il vous plaît.
Oui, moi-même.
Bonjour, ici Eric Kader de CUTFM à Toronto.
Oui, bonjour.
Vous avez quelques minutes?
Oui, bien sûr.
Bon, alors c'est tout un honneur de vous recevoir à nos micros pour la première fois. Vous êtes parmi les panélistes de la séance Viola Desmond du 20 février prochain. Vous portez plusieurs casquettes, auteur, poète, homme très engagé dans les combats politiques et sociaux. Vous siégez à l'Assemblée nationale du Québec. Qu'est-ce qui vous anime pour cet engagement sur plusieurs fronts, monsieur Benjamin?
En fait, merci de me recevoir dans un premier temps. Alors, ce qui m'anime avant tout, c'est le bien commun. C'est l'idée que nous pouvons collectivement, comme société, que ce soit la société québécoise ou la société canadienne, faire mieux. Faire mieux pour nos jeunes, faire mieux pour nos aînés, faire mieux pour nos familles. Et moi, très jeune, je me suis engagé auprès avec d'autres jeunes, donc dans les questions de lutte pour la justice sociale, pour l'égalité, la non-discrimination. Et avec ces jeunes-là, j'étais parti d'un mouvement. Et ensuite, je me suis présenté aux élections scolaires parce que je crois aussi dans cette idée qu'il faut qu'on ait des sociétés avec des institutions où il y ait des représentations, une représentation plus inclusive. Il faut que l'ensemble des institutions reflètent justement la société québécoise, la société canadienne. Donc, alors c'est comme ça que ça a commencé pour moi. C'est l'idée de l'implication, de l'engagement pour faire changer les choses pour tout le monde.
Mais on voit que les réalités, malheureusement, des Noirs n'ont pas tellement changé depuis les 20-30 dernières années. On voit que, par exemple, à Québec, la ville de Québec, il n'y a même pas un policier noir en son sein. On voit qu'à Montréal, il y a eu aussi beaucoup de débats sur la représentativité, mais aussi la façon de traiter les Noirs, les Autochtones dans la force policière. On voit qu'à la ville de Montréal aussi, il y a eu tout un débat, toute une discussion autour de l'équité en matière d'emploi et refléter la diversité des communautés minoritaires au sein de la fonction publique. Et on sait aussi que notre cher Premier ministre québécois, Monsieur Legault, qui ne s'entend pas toujours sur la façon de procéder pour enrayer le racisme, par exemple, il n'y croit pas qu'il y a du racisme systémique. Alors vous, vous êtes député très engagé dans la société québécoise. Quelle est la réalité des Noirs dans la province du Québec en 2021?
Alors, vous avez raison, effectivement, les avancées sont trop lentes. Et sont peut-être même parfois sur des aspects à peine perceptibles, sinon pas perceptibles du tout. La réalité, effectivement, que vous décrivez il y a quelques secondes, c'est la bonne. C'est une réalité où, par exemple, quand on parle des communautés noires ici au Québec, on parle d'une grande communauté, d'une grande communauté composée de francophones, d'anglophones, de communautés noires de vieille souche, de communautés noires de nouvelle souche, c'est-à-dire d'origine immigrante, et des francophones d'origine haïtienne, d'origine antillaise, d'origine africaine, anglophones d'origine caribéenne, d'origine africaine aussi. Et ce sont des communautés qui font face toutes avec des enjeux, par exemple, de discrimination, de racisme, par exemple. On a beaucoup parlé des enjeux du profilage racial. Il faut déplorer, il faut continuer à déplorer que le Premier ministre du Québec ne reconnaît pas le racisme systémique. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que pour pouvoir apporter des correctifs, pour pouvoir guérir un mal, il faut poser le bon diagnostic. Alors, si sur le diagnostic, on ne s'entend pas, on comprend que ça va être très difficile d'apporter des mesures concrètes. Il y a quelques mois, le Premier ministre avait mis en place un groupe de travail sur le racisme. Et imaginez-vous, quand on regarde le rapport de ce groupe de travail, il n'est même pas, à aucun endroit de ce rapport, on ne parle pas des Noirs. On ne parle pas de la réalité des Noirs. On ne parle pas des Noirs, on n'évoque pas les Noirs. Et aussi, un autre aspect, on parle beaucoup des domaines de la justice, évidemment, par rapport au profilage racial, au racisme. Il y a les domaines de l'éducation aussi, où il y a beaucoup d'enjeux en termes de non-prise en compte des besoins des communautés noires. Il y a aussi, au niveau économique, quand on regarde, par exemple, un jeune noir diplômé universitaire et un jeune blanc diplômé universitaire qui occupe le même emploi, le jeune noir, il va avoir près de 25 à 30% de moins de revenus que le jeune blanc. Donc, ce sont les statistiques qui nous le disent. Il y a des enjeux de discrimination par rapport à l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Donc, les avancées sont trop lentes, beaucoup trop lentes et à peine perspectives. Donc, et c'est pour cette raison que je crois que la lutte contre le racisme et toutes les discriminations, ce sont des luttes qui doivent être constantes, une vigilance nécessaire, toujours, et souvent, malheureusement, hélas, il faut recommencer. Et il faut avoir un aspect pédagogique dans la lutte et qui est important aussi d'amener.
Alors, vous siégez à l'Assemblée législative du Québec avec votre caucus libéral. Qu'est-ce que vous faites à chaque jour pour justement apporter ces doléances de la population noire du Québec? Parce que j'ai l'impression que les gens sont un peu tannés, comme pour exprimer l'expression québécoise, c'est-à-dire déçus, fatigués. Par exemple, moi, je connais très bien le Québec, Montréal. Ça fait 40 ans cette année que je suis au Canada. J'ai quitté Montréal, cette ville que j'aime beaucoup, pour des raisons économiques. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'Haïtiens et d'autres immigrants très bien qualifiés, fortement qualifiés, quittent le Québec aujourd'hui pour trouver leur place ailleurs au Canada. Et donc, il y a même quelqu'un qui nous a dit, depuis qu'on a démarré ces émissions spéciales sur le mois de l'histoire des Noirs, qu'il ne regarde plus les télévisions québécoises parce que il ne se voit pas à travers les émissions du Québec, dans les télévisions, les radios, les médias du Québec. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour justement, si un jour le Parti libéral arrive à prendre le pouvoir, qu'est-ce que vous allez apporter du neuf et du nouveau pour enrayer ce racisme qui est en train de ronger la population québécoise, surtout avec la montée des extrémistes de droite? Qu'est-ce que vous avez comme plan d'action si jamais vous arrivez à prendre le pouvoir un jour?
Ben alors, dans un premier temps, je pense que la première des choses, c'est sortir du déni. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a cette affaire qui fait encore l'actualité au Québec. C'est l'affaire Mamadi Camara, qui est ce jeune homme noir, donc qui a été faussement arrêté et accusé, et qui a été par la suite innocenté après avoir passé quelques 6 jours en prison. Et nous avions, dès la semaine dernière, le Parti libéral du Québec, nous avions demandé qu'il y ait une enquête indépendante qui se tienne là-dessus. Je pense que la première des choses, il faut sortir du déni. C'est-à-dire sortir du fait qu'il faut dire que nous sommes une société, bien sûr, ouverte, tolérante, mais où les enjeux du racisme, ce sont des enjeux du quotidien que vivent les communautés, et notamment le racisme anti-noir que vivent beaucoup de membres des communautés noires. Alors, il y a un premier aspect. Le deuxième aspect, je pense qu'il est important aussi que dans les maintenant. Prenons par exemple un projet de loi. Il y a un projet de loi actuellement qui est en cours, sur lequel, d'ailleurs, il y a 3 députés, dont votre serviteur. Nous sommes intervenus il y a quelques semaines en chambre pour critiquer la portée que pourrait avoir cette loi-là. C'est une loi qui concerne, par exemple, tout ce qui s'appelle reconnaissance spatiale autour des enjeux d'application informatique, etc., etc. Nous avons rappelé, et c'était pour nous important de faire, de souligner, que les plus grandes victimes de profilage par rapport aux technologies de reconnaissance spatiale, ce sont les Noirs. Ce sont les personnes à la peau brune. Alors, amener ces enjeux-là, amener cette particularité-là, pour nous, dans tous les projets de loi, que ce soit les projets de loi de santé, les projets de loi de services sociaux, les projets de loi en éducation, c'est amener cette sensibilité qu'il faille travailler pour avoir une société où il faut combattre l'exclusion, il faut combattre la discrimination à tout instant. Et la troisième chose, évidemment, sur laquelle nous travaillons beaucoup comme parti politique aussi, c'est de travailler à aider, à accompagner le renforcement des structures des communautés noires. Je vais vous donner un exemple. Moi, comme qui suis député de Vio à l'Assemblée nationale, donc il y a déjà 3-4 ans, j'ai appuyé et je continue d'appuyer avec d'autres collègues de l'Assemblée nationale un regroupement qui est le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Ce sommet-là, c'est un organisme aujourd'hui qui réunit plus d'une trentaine d'organismes des communautés noires pour travailler ensemble, pour produire de meilleures synergies. Et durant, par exemple, la pandémie que nous traversons actuellement, ce sommet-là, ils ont pu, par exemple, accompagner au niveau de la fracture numérique au moins 800 familles noires en leur donnant, donc c'est des actions concrètes, en leur donnant des ordinateurs, des applications et en leur offrant un accompagnement technique aussi, parce que on est dans une société, on est dans une ère, évidemment, et le non-accès aux technologies numériques devient aussi une forme d'exclusion aussi. Donc, alors voilà, c'est sur ces fronts-là que nous travaillons. Dans un premier temps, les mesures législatives, les programmes qui doivent être des mesures législatives non discriminatoires, avec des portées non discriminatoires, et des mesures d'inclusion aussi des membres des communautés noires.
Monsieur France Benjamin, madame, monsieur, un homme engagé sur la scène publique, député de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, l'organisme communautaire de Toronto, la Fondation Sylvanie Lindor, organise une séance virtuelle rendant hommage à Viola Desmond, femme noire reconnue pour son activisme contre la ségrégation raciale. Il y a même une rue à Ville-la-Salle, que je connais très bien, qui porte son nom, et vous êtes un des panélistes. Que vous inspire cette femme?
Bah, énormément. Lorsqu'on sait que pendant longtemps, c'est un nom qui a été plongé dans l'oubli. Et c'est une femme extraordinaire. Son combat qui a été initialement un combat, une verticalité féminine pour la justice contre le racisme. Et c'est devenu, cette femme-là, pour nous, un modèle de persévérance, de courage. Que ce soit tout le temps qu'elle a pris par devant les tribunaux pour contester justement cette contravention qu'elle a reçue. Et cette patience, cette ténacité n'était plus jamais. Et c'est ce que je dis par exemple à l'ensemble des jeunes des communautés noires partout au Canada. Plus jamais, il faut s'engager, il faut s'impliquer comme citoyennes et citoyens. Parce que si les choses doivent changer, et les choses doivent changer, c'est parce que chacun de nous, nous allons nous impliquer, nous engager pour faire avancer la lutte pour la justice et l'égalité.
Depuis le lancement de nos émissions spéciales sur le mois de l'histoire des Noirs, les auditeurs nous ont fait remarquer qu'ils connaissent très mal, ou presque pas, les personnalités noires qui ont marqué l'histoire du Canada. Comment expliquez-vous l'ignorance des Canadiens?
Parce que je pense que c'est deux choses. Souvent, il y a quelques années, on a eu un débat d'ailleurs, ici à Montréal, dans la communauté noire, pour dire... Il y a des personnalités noires canadiennes qui ont marqué notre histoire. Or, nous connaissons beaucoup les personnalités afro-américaines. Donc, on ne connaît pas assez les personnalités afro-canadiennes. Mais je pense que là, il y a une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée, bien sûr, d'un côté des membres des communautés noires. On doit faire cet effort-là au niveau des organisations des communautés noires, mais aussi au niveau des institutions canadiennes aussi, des institutions canadiennes qui doivent faire cet effort aussi de concerter que ce soit le gouvernement canadien, les gouvernements provinciaux, pour faire en sorte que cette histoire, l'histoire des Afro-Canadiens, n'est pas que l'histoire des membres des communautés noires. C'est aussi l'histoire du Canada. Donc, c'est aussi l'histoire du Canada et cette volonté et ce travail-là, c'est un travail qui doit être fait de concert et il faut encore déplorer qu'il n'y a pas encore assez qui a été fait afin que les enfants qui vont à l'école, par exemple, les manuels pédagogiques, par exemple, en matière d'éducation, c'est une des choses sur laquelle j'ai beaucoup martelé lors de mon mandat comme commissaire scolaire. Il faut que les manuels d'éducation, les manuels d'histoire soient plus inclusifs et reflètent davantage et les réalités des gens qui ont été à l'Assemblée nationale, par exemple, ou du moins les membres des communautés noires. Moi, par exemple, ce n'est qu'en arrivant à l'Assemblée nationale du Québec, comme député en 2018, que j'ai appris, par exemple, que dès le 19e siècle, au milieu du 19e siècle, il y avait un membre de la communauté juive qui était député à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Et pourtant, j'ai fait mes études ici. Donc, je pense que ça montre très bien les lacunes qu'il y a par rapport à l'inclusion et l'apport de la diversité, notamment dans les manuels d'histoire. Mmh. Là, je pense qu'il y a un effort à faire.
Quels sont vos rêves, vos aspirations pour le futur? Rêvez-vous un jour peut-être d'être Premier ministre du Québec ou du Canada?
Écoutez, nous sommes dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Mon plus grand rêve, c'est de... Vous savez, j'ai deux filles. Je suis père de deux filles. Et à chaque semaine, je rappelle à mes filles qu'elles auront des combats à mener. Des combats à mener comme femmes, et des combats à mener comme noirs. Je rêve qu'un jour, que mes filles à leur tour, quand elles auront des enfants, si elles veulent avoir des enfants, qu'elles n'auront pas à tenir ce discours-là envers leurs enfants, qu'elles auront à dire à leurs enfants, tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler fort, et si vous travaillez fort, le succès est au bout de votre travail.
Monsieur France Benjamin, en tant que député noir, pouvez-vous me nommer une bonne et une mauvaise expérience qui restera gravée dans votre mémoire?
Une bonne expérience, oui, je peux vous en nommer une. Alors, c'est celle, par exemple, où nous avons collectivement, il y a 5 ans, des jeunes membres des communautés noires, où nous avons collectivement travaillé pour mettre en place un fonds pour soutenir la persévérance scolaire au sein des jeunes des communautés noires. Et ce fonds s'appelle aujourd'hui le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. C'est un fonds qui est devenu le plus grand fonds qui donne des bourses au Québec. Et nous ne donnons plus seulement des bourses aux jeunes Québécois des communautés noires, mais on donne à l'ensemble des jeunes Québécois. Donc, à chaque année, c'est quelques 75 à 100 000 $ qu'on donne en bourse à des jeunes pour soutenir la persévérance scolaire. J'en parle parce que cette semaine, la semaine prochaine, sera au Québec les journées de la persévérance scolaire. Et je sois pour moi, c'est un bon coup que nous avons réalisé comme jeunes membres des communautés noires et au bénéfice de l'ensemble de la société québécoise. Écoutez, une mauvaise expérience, je pourrais vous rappeler quand j'étais adolescent, sur la rue Beaubien à Montréal, coin 18e avenue, j'ai été victime d'une agression raciste de la part de... J'attendais l'autobus et c'était la première fois qu'on me traitait avec le N-word. J'attendais l'autobus tout bonnement, il y a quelqu'un qui est venu m'attaquer. Et ça, c'est une agression, je l'ai senti, je l'ai vécu de manière viscérale et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
Monsieur François Benjamin, homme engagé sur la scène publique, député de Viau à l'Assemblée nationale du Québec, président du caucus des élus de l'opposition officielle et porte-parole des dossiers jeunesse, ancien conseiller scolaire et conseiller de la ville de Montréal. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Il vient de publier son dernier livre, « Nuit des anses pleines » aux éditions Mémoire d'Encrier 2021. D'ailleurs, la prochaine fois, j'aimerais vous inviter pour vous parler en tant qu'auteur, en tant que poète. Alors, envoyez-nous une copie. On aimerait bien vous inviter une prochaine fois, peut-être dans le cadre du mois de la francophonie.
Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas.
Ben, alors, je rappelle aux auditeurs que vous serez à la séance de Viola Desmond le samedi 20 février, séance organisée par la Fondation Sylvanie Lindor, notre partenaire communautaire. Monsieur France Benjamin, merci en pile d'avoir été des nôtres et bon mois de l'histoire des Noirs. Que la force soit avec vous.
Merci à vous aussi. Merci en pile au même tout. Merci.
Au revoir.
Carnaval, les amis, la vie. C'est 14, 15, 16, c'est ça? 14, 15, 16. Qui va te finir? Qui va te faire carnaval déjà encore?
Bonsoir, messieurs les présidents. Nous venons côté pour nous dire yon parole. Côté cité, promesse, mon cache là. Coulant qui attend avec 3000 piastres. Mon a foutu mourir dans le vieux pays. Chaque jour, t'en dis yon le bon monde. Ou pas foutu, j'en pète des bonnes senti. Coulant qui attend mon athlète à cacao là. Bonsoir, messieurs les président, nous venons côté pour nous dire yon power. Côté cité, promesse pour cache là. Coulant qui attend mon avec 3000 goudois. Mon a foutu mourir dans vieux pays. Chaque jour son power kidnapping. Ou pas foutu j'en pète des bas senti. Coulant qui attend mon gouvernement cacao là.
Nelson Mandela, c'était aussi une voix, porteuse de grands messages avec emphase et conviction. Voici quelques-unes de ses déclarations qui ont fait l'histoire. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu, pour être certain qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Après 90 ans d'existence, il est temps que de nouvelles mains soutiennent les fardeaux. Cela est dans vos mains maintenant.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
À l'occasion de la 34e édition du mois de l'histoire des Noirs, CUTFM vous présente une édition spéciale chaque dimanche de 11h à 13h, heure de Toronto, depuis le studio virtuel de Popourri Show. Chaque dimanche, à CUTFM vous ouvre ses archives sonores. Vous pourrez entendre les défricheurs de savoir et de nombreux invités au reportage, les grandes voix de la littérature africaine et antillaise. Gagner des cadeaux en participant à nos jeux concours. Nous rendrons hommage aux oubliés de l'histoire et aussi à ceux et celles qui militent pour la justice sociale. Après les manifestations « La vie des Noirs compte » en 2020, qui avait déclenché une profonde vague de colère à travers le pays, où en sommes-nous aujourd'hui? Chaque dimanche, les inventeurs et savants noirs, occultés par l'histoire, racontent leur parcours, leurs émotions, les réussites inspirantes qui ont structuré leur existence. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, du 7 au 28 février 2021. Célébrons la 19e édition du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau, sous le thème « Une lutte aux mille visages » et la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, un événement qui célèbre la richesse culturelle, artistique, culinaire des communautés noires et afrodescendantes. Cette année, il n'y a pas d'excuse pour personne, car toutes les activités sont gratuites et se déroulent uniquement en ligne. Retrouvez tous les liens de nos partenaires et invités sur popourrichaud.com. Du 7 au 28 février, une lutte aux mille visages. Des émissions présentées par CUTFM en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, France Inter, la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville du Québec, le mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Du 7 au 28 février, où que vous soyez sur la planète, soyez au rendez-vous sur CUT 89,5 FM ou découvrez la programmation complète du mois sur popourrichaud.com. Toute l'équipe de la radio vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs.
Je prends tout ce que j'ai. Africa, the time is now. Wake up, Africa, the time is now. Masitangaleni, we got to live.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez Popourri Show, une émission spéciale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Bon mois de l'histoire des Noirs. Je vous rappelle la 19e édition du mois des Noirs à Gatineau, ayant pour thème une lutte aux mille visages. Voilà le thème qui marque cette édition 2021 du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Au-delà des sujets tant médiatisés comme le racisme systémique, le mot N, the N-word, la représentation, ce sont aussi des multiples facettes, les mille visages de cette lutte parfois oubliée, occultée, qui mérite toute notre attention cette année. La pandémie a mis à nu et exacerbé les défis sociaux auxquels sont confrontées les communautés noires, entre autres comme la santé mentale, l'éducation, la situation des femmes, des LGBT, des immigrants, des réfugiés. Cause ou conséquence du racisme, ces sujets doivent faire partie du débat. Donc, on vous invite à en parler. Le mois de l'histoire des Noirs est toujours un moment privilégié pour mettre en valeur des personnalités locales, internationales, des moments historiques, des cultures qui ont façonné l'histoire des Noirs et de l'humanité. Toute une diversité d'activités vous attendent, madame, monsieur, et tout se passe en ligne. Allez sur le site du mois de l'histoire des Noirs de Gatineau ou allez sur notre site popourrichaud.com. On vous donne rendez-vous. Et il y aura des célébrations, des festivités, des programmes adaptés aux mesures sanitaires mises en place pour combattre la pandémie, pour ceux et celles qui pensent aller assister à quelques séances sur place dans la région d'Ottawa-Gatineau. Ce sera une édition historique, nous dit-on, une belle histoire à raconter. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la décennie internationale 2015-2024 des personnes d'ascendance africaine décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, pour mettre en valeur l'histoire et les contributions importantes des personnes d'ascendance africaine à l'édification de notre société. Chaque mardi du mois de février, vous pourrez assister à certaines séances. Et là, ici, je parle, c'est des contes pour enfants, les mardis de 16h30 à 17h30, le conte philosophique africain pour les tout-petits de 9 ans à 12 ans. Et le tout se passe en ligne, retransmis en direct sur la page Facebook du mois de l'histoire des Noirs de Gatineau. La méthode inspirée de la tradition des contes africains donne la possibilité aux enfants de s'épanouir en apprenant à penser, à s'écouter dans un même mouvement. Les contes africains inspirent une méthode pour apprendre à raisonner dans le plaisir et la bienveillance. C'est présenté par Penser et Grandir pour la vie en collaboration avec la ville de Gatineau et Marie-Evelyne Bellinga. Et les dimanches 21-28 février de 10h à 11h, session de conte avec Silberte Desrosiers, en ligne bien sûr, retransmis en direct sur la page Facebook du mois de l'histoire des Noirs de Gatineau. On vous invite dans un univers où se côtoient l'amour des mots, l'imagination et une touche de magie. Chaque dimanche, on partagera un des trésors que Silberte garde précieusement dans sa bibliothèque, de jolis et captivants contes pour enfants écrits par des auteurs haïtiens. Et c'est gratuit, hein. Ça ne coûte absolument rien. Silberte Desrosiers, vous pourrez aller sur le site pour avoir son courriel et tous les renseignements. Le lundi 15 février, donc demain, de 18h30 à 20h30, il y aura une conférence sur le racisme systémique. Le tout est retransmis en direct sur la page Facebook du mois de l'histoire des Noirs.
C'est largement admis dans, que le racisme existe dans notre société, mais existe-t-il de façon isolée, nous dit-on, ou est-il le fruit de politiques et de pratiques structurelles, institutionnalisées, qui lui permet de perdurer? Donc, on vous invite à rejoindre toute l'équipe pour explorer ces questions. On vous invite à apprendre, vous aurez l'occasion d'apprendre plutôt sur les efforts en cours pour reconnaître, dénoncer et déraciner le racisme structurel à travers les témoignages puissants des activités ou des activistes plutôt en première ligne de cette lutte. Alors, il y aura plusieurs panélistes, intervenants, intervenantes, Marietou Diallo, co-directrice des communications Interpares, Olive Kamanyana, qui est la présidente de LeaderPol, Leadership Politique pour les personnes d'ascendance africaine, Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés, Martine Eloy, membre du CA de la Ligue des droits et libertés, du comité racisme systémique et exclusion sociale, et Philippe Froud, et les professeurs adjoints à l'Université d'Ottawa. Pour renseignements, vous allez sur le site, bien sûr, vous aurez tous les renseignements sur le site de Mois de l'Histoire des Noirs de Gatineau. Et le samedi 23 février à 19h30, très intéressant, il y aura une table ronde. LeaderPol lance le projet de l'ouvrage collectif La Voix des Jeunes. Table ronde, lancement de la fondation LeaderPol en ligne à ne pas rater. Ce nouvel organisme, d'ailleurs nous aurons la présidente très prochainement, dans quelques minutes plutôt à l'émission, et c'est un organisme qui lutte pour les personnes d'ascendance africaine, surtout au niveau des représentations dans la gouvernance des institutions. Alors tout à l'heure nous aurons l'occasion d'en parler un peu en long et en large avec sa présidente. Donc il y a deux activités, le samedi 23 février à 19h30 et le 27 février à 18h, une autre table ronde, cette fois-ci, c'est le lancement d'un ouvrage collectif « La voix des jeunes » et le tout se déroule en ligne. Madame, monsieur, sans plus tarder, passons à notre invité. Enfin, nous aurons un extrait de l'entretien que j'ai eu avec elle, la communication n'était pas très bonne. Madame Olive Kamanyana, elle est présidente de LeaderPol Leadership Politique pour les personnes d'ascendance africaine, elle est gestionnaire au gouvernement fédéral. Elle a publié plusieurs articles dans des médias francophones et vous trouverez toutes les activités de LeaderPol Leadership Canada et sur le site popourichaud.com et ou encore vous allez sur le site de Mois de l'Histoire des Noirs de Gatineau. Voici un extrait de notre conversation avec Madame Olive Kamanyana, présidente de LeaderPol Leadership, politique pour les personnes d'ascendance africaine.
Allô?
Oui, bonjour. Je voudrais parler à Madame Olive Kamanyana, s'il vous plaît. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir pour la première fois à notre émission dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs, qui connaît un vrai succès cette année parce que les gens se demandent, se posent toujours des questions. Comment est-ce que vous faites pour retrouver telle ou telle personne, telle ou telle invitée? Il y a une richesse incroyable dans notre communauté francophone à travers le Canada. Alors, votre organisme est à l'affiche de l'édition 2021 du Mois de l'Histoire des Noirs à Gatineau, une lutte aux mille visages, et LeaderPol Canada présente deux événements majeur. Le premier, c'est le samedi 23 février à 19h30, le lancement de la fondation LeaderPol autour d'une table ronde, un événement qui se déroule en ligne. Et le deuxième événement est prévu pour le samedi 27 février à 18h lors d'une table ronde et vous lancez le projet de l'ouvrage collectif La Voix des Jeunes, un événement qui se déroulera en ligne aussi. Alors avant d'aller plus loin, en tant que vieux routier de la francophonie canadienne, c'est la toute première fois que j'entends parler de votre organisme. Pouvez-vous en deux mots expliquer aux auditeurs le but, la mission et la pertinence de LeaderPol Canada?
Alors, je vous remercie d'abord de m'inviter pour pouvoir parler à vos auditeurs et auditrices et pouvoir parler à vous aussi de LeaderPol, leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine. Alors, cette organisation existe depuis 2019, donc il y a plus ou moins un an et demi, Et mais les discussions autour de cette organisation ont commencé en 2018. Alors, c'est une organisation qui milite pour s'assurer d'une représentativité politique et institutionnelle à toutes les instances canadiennes, c'est-à-dire les instances municipales, provinciales et fédérales, dans ce sens où, comme vous le savez comme moi, au Canada, à tous les paliers des gouvernements, il y a une absence visible des représentants élus au niveau des conseils municipaux, au niveau des assemblées nationales et au niveau du Parlement canadien. Et surtout encore, en particulier, il y a une absence de représentativité au niveau de la gouvernance institutionnelle, c'est-à-dire au niveau des sociétés d'État. Quand on parle de sociétés d'État, par exemple au Québec, on peut parler d'Hydro-Québec. Au niveau canadien, on peut parler de Radio-Canada. Au niveau municipal, on peut parler des sociétés de transport à travers les municipalités ou même au niveau des services de police. Donc, Leaderpol défend une gouvernance représentative au niveau du Canada à tous les paliers politiques et institutionnels.
Mmh. Alors, sur votre site web, vous faites mention des données de recensement de 2016 qui démontrent que 3,5% de la population canadienne s'identifie comme noire, soit près de 1,2 million de personnes, ça fait beaucoup. Et on peut aussi lire, il est important de souligner que la sous-représentation des personnes issues des communautés noires dans les différents postes est remarquable. Vous savez sans doute qu'en 1991, 92, 93, l'Ontario avait mis sur pied une commission de l'équité en matière d'emploi sous la gouvernance de Madame la juge Westmoreland Traoré. Et il y a eu aussi beaucoup d'études, de recherches qui ont été réalisées. Même chose au niveau fédéral, avec tout le respect que je vous dois. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de réinventer un monde qui existe déjà et dont il s'est fait beaucoup, beaucoup de travail, comme vous savez, dans le passé, et qu'on est en train de faire le jeu de certains qui aiment ce genre de rapport, des études, et qu'on va étudier pour la 9e, la 10e fois. En attendant, on perd beaucoup de temps et les groupes aspirant à l'égalité, justement, l'égalité des chances, sont toujours à la traîne, leurs espoirs sont toujours de déception en déception. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui nous écoutent et qui sont fatigués, qui sont déçus de la situation, de la place des Noirs au sein justement de ces institutions au niveau fédéral ou provincial de nos gouvernements?
Ce que je peux dire à mes collègues et à mes compatriotes qui militent pour s'assurer de la représentativité au niveau de notre pays qui est le Canada, je peux tout simplement nous dire il faut pas arrêter. Moi, je dis simplement et très fortement, je suis une femme. J'ai vu mes collègues femmes au niveau canadien et au niveau des provinces se battre pendant plusieurs années, militer pendant plusieurs années, faire la marche, longue marche pendant plusieurs années pour justement défendre leurs points par rapport à la représentativité des femmes. Et aujourd'hui, on a ces femmes-là, cette société-là qui commence à changer pour les femmes, un exemple, nous, les communautés noires, pour dire c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on parle, il y a, comme vous suivez les élections ici dans ce pays, il n'y a aucun parti qui peut commencer sa campagne électorale sans répondre à la question de la parité par rapport aux hommes et aux femmes en termes de représentativité politique. Et vous allez voir aussi au niveau des conseils d'administration et des sociétés d'État et de la gouvernance des sociétés d'État, il y a quand même une certaine avancée pour qu'il y ait des femmes par rapport aux hommes. Mais contrairement à ce qui devrait arriver pour les communautés noires, ce n'est pas le cas. Donc, on peut utiliser cet exemple-là pour dire aux communautés noires, aux membres des communautés noires, oui, c'est possible. Et aussi, je vais vous dire, avant Leaderpol, oui, les gens ont travaillé beaucoup, beaucoup, c'est sûr et certain, mais on a eu beaucoup tendance à travailler au niveau des premières lignes, c'est-à-dire qu'on va trouver des emplois pour les gens, ce qui est très important, c'est-à-dire trouver des emplois au McDonald's, trouver des emplois au gouvernement fédéral, trouver des emplois, il faut absolument que ce soit ça. mais on n'a pas beaucoup travaillé au niveau des changements des politiques. Alors, les changements de politique se font où? Ils se font dans les assemblées nationales, ils se font dans les parlements, et ça se fait aussi dans les sociétés d'État, parce que la majorité des sociétés d'État décident des politiques qui ont un impact sur les membres de la société canadienne et aussi sur les membres des communautés noires. Et là, on n'est pas représenté. Comment voulez-vous que notre voix soit entendue et que les besoins soient tenus en compte quand on n'est pas autour de la table où les décisions se prennent? Et ça, c'était quelque chose qui manquait. On est là pour sensibiliser nous-mêmes, c'est-à-dire les membres des communautés noires, à nous présenter nous-mêmes aussi en politique, à présenter nos candidatures et aussi à aller voir nos dirigeants, leur dire « Hey, nous sommes là, voici nos besoins ». Mais nous sommes aussi là pour demander aux dirigeants des partis politiques et aux dirigeants gouvernementaux, c'est-à-dire les premiers ministres du Canada, les ministres, le conseil des ministres et les conseils municipaux, regardez, votre gouvernance doit inclure les communautés noires. Donc, il faut qu'il y ait des changements dans les politiques. Les politiques sont très, très âgées, alors que la communauté canadienne change, alors que les membres des communautés noires augmentent au Canada.
Et il y a des obstacles systémiques, parce que des fois, on voit qu'on a pu embaucher une personne de couleur, de race noire, d'ascendance africaine, mais ces gens ne font pas long feu dans ces instances, parce qu'il y a tellement d'obstacles qu'elle rencontre, j'en connais depuis 90, on en a vu, de temps en temps il y a eu des changements, il y a eu des promesses de la part des politiques, et là on a écrit des lois, des politiques d'embauche, mais malheureusement la mentalité, on ne peut pas nécessairement changer la mentalité de certaines personnes du jour au lendemain, vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, il y a un rapport qui dit ici, le racisme anti-noir est répandu dans la société canadienne et la fonction publique fédérale n'y échappe pas. Près de 30 000 fonctionnaires actuels et anciens qui s'identifient comme noirs ont déposé un recours collectif contre le gouvernement du Canada et se disent victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi. Pensez-vous que cette action, ce recours collectif, va aboutir à quelque chose de positif pour la communauté noire?
Moi, j'y crois à 100%. J'y crois, et ça, c'est une ligne qu'on atteint, nous, les membres des communautés noires, on atteint cette ligne-là parce que toutes sortes de négociations, toutes sortes d'initiatives ont raté. Alors, quand ça rate et qu'on est rendu à ne plus savoir quoi faire d'autre, on demande à nous-mêmes, on se dit, il est peut-être temps, et surtout, on se dit, il est en fait temps de montrer au gouvernement qu'il y a un système judiciaire qui existe et qu'ils vont trancher. Et c'est aberrant de voir comment, au gouvernement fédéral, si on prend le gouvernement fédéral, une personne membre des communautés noires vient d'être nommée, ça fait pas longtemps, l'année passée, comme sous-ministre délégué pour une fonction publique qui existe depuis plusieurs années. Il n'y a jamais eu de personne noire dans les rangs des sous-ministres. Et madame qu'on a nommée dernièrement n'est même pas sous-ministre, elle est sous-ministre déléguée. Mais c'est la première fois dans l'histoire du Canada. C'est incroyablement inacceptable. Alors, ils le savent aussi, et nous le savons aussi, et quand on regarde au niveau de ceux qui prennent les décisions, c'est-à-dire au niveau des directeurs généraux, au niveau des sous-ministres adjoints, il y a une absence incroyable des membres des communautés noires. Comment voulez-vous que les gens en bas, qui aussi embauchent au niveau des gestionnaires, au niveau des directeurs, changent leur point de vue de voir les membres des communautés noires qui sont dans la fonction publique pour leur donner les promotions, quand ils ne voient pas en haut des symboles? Donc c'est tout à fait normal. Une société sans symboles, justement, agit comme si ces membres qui n'ont pas de symboles n'existaient pas. Et c'est ça la question qui est vraiment au centre des discussions. Qu'est-ce qui empêche les membres des communautés noires au niveau fédéral de se rendre à des niveaux aussi de gestion comme tous les autres membres des communautés.
Oui.
Et il va falloir que le gouvernement fédéral y réponde.
Oui. En tout cas, on pourra faire tout un débat avec vous et plusieurs autres personnalités très prochainement. Olive Kamanyana, présidente de Leaderpol, j'étais pour de l'Interpol, Leaderpol, Leadership Politique pour les personnes d'ascendance africaine. Et vous nous invitez joyeusement au lancement avec des panélistes, et cela se déroulera le 27 février. Alors, parlez-nous un petit peu de cette programmation et de vos invités.
Alors, nous avons, avec la plateforme de Gatineau ici, là, le Conseil des Noirs de Gatineau, qui organise le mois de l'histoire des Noirs, nous leur avons proposé deux événements. Nous avons d'autres événements qui ne passent pas par là, mais parlons de ceux de avec CCNG. Nous avons le lancement de la fondation de Leaderpol, Cette fondation-là est très importante parce que justement, elle va aider les membres des communautés noires qui veulent se lancer en politique, qui ont un projet politique, par exemple, au niveau municipal, parce qu'elle a bientôt ici, au niveau du Québec, il y a des élections en 2021 qui arrivent, et les autres provinces vont, les élections provinciales vont suivre, et fédérales, on ne sait pas quand, ça peut être bientôt. Donc, on veut aider ces personnes-là à comprendre et avoir une formation sur comment procéder. Parce qu'il y a aussi cette sensibilisation des membres des communautés qui est très importante. Et aussi, s'il y a les membres des communautés noires qui veulent, qui ont un projet de devenir un chef d'une société d'État ou un leader dans d'une société d'État ou tout simplement veut faire partie du conseil d'administration et que la personne ne sait pas comment, on veut lui octroyer à travers des organisations ou à travers un fonds qu'on va ramasser, l'argent qu'on va ramasser par des levées de fonds. On veut les aider à y arriver. Donc, c'est à travers le Canada et on va faire des campagnes de financement annuelles et des campagnes de financement qui sont continues pour pouvoir ramasser l'argent et aider à ce niveau-là parce que il manque de l'aide. Et comme j'ai dit tantôt, les groupes femmes, il y a beaucoup de groupes qui aident les femmes dans ce sens-là. Et nous, on veut aussi aider les membres de communautés noires à y arriver.
Mmh. Est-ce que vous comptez faire une campagne de promotion de votre organisme à l'échelle du Canada et surtout à Toronto? Parce que les gens méritent de prendre conscience de l'importance de votre organisme, n'est-ce pas?
Exactement, on est justement à notre deuxième phase de faire une grande campagne à travers le Canada parce que nous sommes à notre une année et demie, là, c'est pas beaucoup pour que l'organisme soit connu partout, par tout le monde. Mais nous sommes là et nous cherchons aussi, Leaderpol cherche aussi du financement pour justement nous aider, ce qui n'est pas facile. Jusqu'à maintenant, nous travaillons avec nos bras, on travaille très fort et on est très fiers. Mais pour cela, justement, la fondation, les campagnes, on va les faire en utilisant les personnalités en faisant recours aux personnalités connues pour pouvoir faire toutes les régions du Canada.
Et vous-même, vous êtes fonctionnaire, n'est-ce pas?
Tout à fait, moi je suis fonctionnaire.
Et donc, le 23 février à 19h30, vous avez cette table du lancement de la fondation Leaderpol. Parlez-nous un petit peu justement des invités et aussi rapidement, le 27, c'est le samedi 27 février, vous avez une autre table ronde. Cette fois-ci, c'est pour présenter le projet de l'ouvrage collectif La Voix des Jeunes.
Oui, alors les invités pour la fondation, on a déjà envoyé les invitations et les gens sont en train de confirmer. On a mis au centre le caucus des parlementaires noirs qu'on a entouré par tous les autres politiciens ici des communautés noires et des alliés qui vont venir discuter autour de quels sont les besoins pour aider les communautés noires à se retrouver dans les instances de gouvernance au niveau canadien.
Alors, Madame Kamanyana, un grand merci d'avoir participé à notre émission. Revenez nous voir quand vous le voulez, le plus souvent possible. Bonne chance, bon succès, que la force soit avec vous.
On en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Est-ce que ça va changer ou ça restera ainsi? Sérieux est le danger, trop de clips dans la nuit, blanc et noir ennemi. Blessé et enragé, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petits enfants dans le rap et une rage. Nouvelle à la télé, controverse habituelle. Une jeunesse menottée, notre fierté est devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, tous se emprisonnés. Année après année, yo, oh, non. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police.
CIUT 89.5, Toronto.
Qu'il me faut pour vivre, regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis.
Attention, prêt, déguster. FCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur les Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses et équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes. 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
L'Afrique, redevenue indépendante, a besoin de sa propre histoire. L'Afrique se libère de la domination coloniale. La France, l'Angleterre, la Belgique, le Portugal, tout le monde est en train de partir. Cette nouvelle Afrique, l'Afrique indépendante, a besoin d'écrire, d'étudier et de connaître sa propre histoire. Pas seulement pour corriger, pas seulement pour rectifier les fautes souvent volontaires, les déformations négatives qui ont desservi l'Afrique depuis la traite et la colonisation. L'histoire de l'Afrique nouvelle, c'est une histoire pour aller de l'avant, pas pour regarder derrière, pour aller de l'avant. Car il y a un proverbe fameux sur le continent qui dit ceci, « Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment saurais-tu où tu vas et surtout où tu dois aller ?»
Cela veut dire que nous avons notre mot à dire. Cela veut dire que nous avons notre place au sein de ce syndicat. Alors, il est totalement inadmissible que nous payons les cotisations comme les autres et que nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. C'est ça l'absurdité. Dis-nous, que le syndicat, que l'AFO nous explique pourquoi nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. Qu'ils nous le disent. Il y a de la compétence au sein des enseignants et enseignants. Encore on parle issu de la diversité, il y a de la matière grise, il y a de l'expérience, il y a des gens qui ont des connaissances qui veulent les valoriser aussi. Nous ne demandons que d'avoir notre place. Nous ne voulons que être valorisés à notre juste valeur. qu'elle a intégrée au sein des enseignants et des adversaires, nous disons.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls, nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
What do the Francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, Education Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Eh bien, les appels à la désobéissance civile se multiplient depuis le coup d'État en Birmanie, tandis que les condamnations internationales continuent à tomber. Washington a formellement accusé les militaires d'avoir perpétré un coup d'État et promis de nouvelles sanctions à l'encontre des généraux. Ces actes sont condamnés par de nombreuses capitales étrangères. Les premiers signes de résistance émergent sur les réseaux sociaux. Notre collaborateur nous livre ses préoccupations sur les élections de novembre aux États-Unis et le coup d'État en Birmanie. Voici Maître Peter Biro, correspondant spécial de Popourri Show.
Ne vous inquiétez pas, m'a dit la dame, the lady, comme l'appelle avec révérence ses compatriotes. Vous êtes en sécurité ici dans cette salle. Telles étaient ses premières paroles en entrant dans la salle de conférence attenante à son bureau dans l'un des imposants bâtiments du Parlement à Nebida, la capitale étonnamment désolée du Myanmar. C'était une salutation apparemment pratiquée, dispensée au profit des visiteurs étrangers, mais qui m'a pourtant laissé momentanément étourdi. C'était en mars 2015 et je rencontrais Aung San Suu Kyi, chef de file de la Ligue nationale pour la démocratie du Myanmar, la LND. Ses paroles de réconfort concernant ma sécurité en sa présence reconnaissaient la réalité de plus de 50 ans de régime militaire qui, bien que formellement pris fin en 2011, continuait de jeter son ombre inquiétante sur le gouvernement et la politique birman. En novembre de la même année, la LND remporterait les élections nationales, faisant d'Aung San Suu Kyi le conseiller d'État et le chef d'État de facto. Mais même sous un gouvernement de la LND, l'armée a conservé un contrôle significatif du gouvernement, car la constitution garantit aux Tatmadaw, les forces armées du Myanmar, 25% des sièges au Parlement, ainsi que le contrôle des ministères de la Défense, de l'Intérieur et des Frontières. Au cours de notre réunion, nous avons discuté d'un large éventail de sujets, inclus les perspectives de partage du pouvoir civil avec les Tatmadaw, et bien sûr le sort et le traitement de la minorité Rohingya aux mains des militaires. La dame n'a évité rien de tout cela et n'a pas non plus tenté de prétendre qu'elle était autre chose qu'un réaliste et un pragmatique intransigeant dont les priorités étaient avant tout de gagner les prochaines élections nationales, de normaliser les relations du Myanmar avec le monde extérieur et de consolider la position de la LND en tant que force politique dominante du pays. Cette dernière mission impliquait un exercice de politique populiste si habilement exécuté et perfectionné qu'il pouvait servir d'instruction et d'exemple tant aux démocrates ambitieux et aux démagogues en herbe, fondés comme elle l'était dans une compréhension profonde des insécurités, des préjugés et des ambitions implicites dans le nationalisme bouddhiste d'une grande majorité de la population birmane. Dans les années qui ont suivi l'ascension au pouvoir de la LND en 2015, Aung San Suu Kyi a, à maintes reprises, montré ses vraies couleurs, comme lorsque, lors de ses soumissions devant la Cour internationale de justice en 2019, elle devait admettre quand même que la force disproportionnée ait pu être utilisée par l'armée du pays contre les Rohingyas, mais que, sûrement, dans ces circonstances, l'intention génocidaire ne peut pas être la seule hypothèse. Les élections de novembre, y compris leur anticipation, semblent avoir un moyen de déclencher nos inclinations antidémocratiques. Novembre 2015 a porté la dame, the lady, au pouvoir. Novembre 2016 a fait de même avec Donald Trump. Et en novembre 2020, deux élections nationales, chacune produisant des victoires convaincantes, l'une aux États-Unis, l'autre au Myanmar, ont également donné lieu à des allégations extraordinaires de fraude électorale et à des efforts encore plus extraordinaires et alarmants pour renverser ces résultats et supplanter la démocratie avec un autoritarisme d'une sorte ou d'une autre. Ce que j'ai appris à propos d'Aung San Suu Kyi en 2015 me suggère que, aussi profondément attristée et en colère qu'elle l'est, sans aucun doute, alors qu'elle se trouve en détention à la suite du coup d'État militaire perpétré cette semaine, la dame n'est presque certainement pas choquée ou surprise. Elle comprend très bien, et d'ailleurs trop bien, son pays, son peuple et sa politique. Et elle a payé à plusieurs reprises un prix personnel trop élevé et exigé sa part en retour pour être maintenant choquée ou surprise. Mais qu'en est-il de la tentative de coup d'État pour des motifs et des prétextes similaires à la suite d'une autre élection de novembre de l'autre côté de l'étang? Alors que les Américains attendent le résultat d'un procès de destitution et de l'auto-réinvention du Parti républicain, ils, et d'ailleurs nous tous, pourrions réfléchir avec profit à ce qu'une démocratie constitutionnelle exige de ses dirigeants et de ses citoyens afin qu'ils puissent être vraiment, vraiment en sécurité, comme a dit la dame, en n'importe quelle salle. Sur ce point, la dame pourrait bien être une source de sages conseils. Peter Biro, correspondant spécial, le Pot-Pourri Show, CIUT FM.
J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre, regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut. Aimes-tu la vie comme moi? J'aime les animaux, y'a rien de plus fin et de plus beau. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut.
Aimes-tu la vie?
Yeah. Avec l'appli Les Indes Radios, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, écoutez nos radios et web radios en direct. Un titre vous plaît? Ne le laissez pas filer. Réécoutez-le instantanément ou ajoutez-le à votre playlist pour le retrouver plus tard. Déjà 2 millions de téléchargements. L'appli Les Indes Radios, la bonne des radios.
Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Est-ce que ça va changer, ou ça restera ainsi? Sérieux est le danger, trop de cris dans la nuit. Blanc et noir ennemi, blessé et enragé. Regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petits enfants d'un peu rempli d'une réalité. Nouvelle à la télé, contre d'un sabit souvel, une jeunesse menottée, notre fierté devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, fut se grand prisonnier. Année après année, yo, oh, non. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Regardez ce pas de quoi. On le sent dans l'atmosphère. Ne me demande pas pourquoi on déteste la loi. Son visage est par terre. On crie à l'aide. L'amour n'est plus le remède. La honte est rendue le maître. En dehors de mon aide, c'est la haine qui succède. Action et conséquence. Une famille qui porte le deuil. Petit pays en souffrance. Moi et l'âme sur ma feuille. C'est rendu moi contre toi, toi contre lui, lui contre elle. Nous contre vous, c'est la guerre. Une haine qui coûte cher. Et oh non. On en a assez. On en a assez, racisme et sexisme, on en a assez, acte d'égoïsme, on en a assez, corruption dans la police, on en a assez, violence erronée, fierté menottée, futur emprisonné, yo, on en a assez, tanné de crier, on est fatigué, on est écœuré, yo, on en a assez. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
CIUT 89.5, Toronto.
Écoutez la planète chanter.
Elle chantant les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Adrabenakuza, dingy dong, dingy dong, dingy
dong. Écoutez la planète chanter.
Ici, c'est
Énergie. La route ne tombe pas tout, il faut pas casser.
Toujours numéro 1. Numéro 1 en Guadeloupe. Numéro 1 en Martinique. Énergie Antilles, numéro 1 sur les gifts. Numéro 1 sur les cadeaux. Numéro 1 sur la proximité avec les auditeurs. Numéro 1 sur les artistes. Numéro 1 sur les concerts. Numéro 1 sur la bonne humeur. Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
Couleur tropicale est à Cotonou. Toi-même tu. Toi-même tu.
commencer le show, je vous demande de recevoir ici dans la radio des gens Fanico.
Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous.
Édition spéciale, mois de l'histoire des Noirs. Édition 2021. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes des vôtres jusqu'à 14 heures. C'est ainsi chaque dimanche, tout au long du mois de février. Pour télécharger nos émissions, popourishow.com ou encore pour nous écrire popourri@cut.fm. La table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec vous offre toute une programmation exceptionnelle pour une année exceptionnelle. Notre prochain invité est Monsieur Saliou Diallo. Il est vice-président de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Vous pouvez retrouver toutes les dates et le calendrier, les activités sur histoiredesnoirsquebec.com. Monsieur Saliou Diallo compte plusieurs années d'expérience en finance et d'engagement en faveur du développement durable, diplômé d'un master de droit international public à l'université d'Aix-en-Provence en France. Il détient également une maîtrise en développement international de l'Institut québécois des hautes études internationales de l'université Laval à Québec. Après des stages à l'OCDE et à l'UNICEF, Monsieur Diallo a occupé les postes de conseiller financier à la Banque nationale et le conseiller en développement de partenariat à Oxfam. Guidé par la conviction de l'entrepreneuriat au 21e siècle, qui doit permettre la promotion de nouvelles pratiques économiques plus en phase avec les exigences environnementales et sociétales de notre époque. Ainsi, Iroco, une entreprise libérale à vocation sociale et environnementale, c'est la référence de e-environnement pour la mise en disposition de solutions numériques personnalisées pour relever les défis climatiques. La mission permet à chaque personne d'être une solution face aux défis climatiques. Comme vous le voyez, le Québec regorge de personnes de grands talents. Le Canada regorge de personnes d'ascendance africaine de grands talents. Comment se fait-il alors qu'on les voit uniquement lors du mois de l'histoire des Noirs? Il est où le problème? Allez, direction la ville de Québec.
Allô?
Oui, bonjour, je pourrais parler à Monsieur Saliou Diallo, s'il vous plaît.
Diallo, c'est moi.
Bonjour, alors, bonjour. Très heureux de vous accueillir à nos micros dans le cadre des célébrations du mois de l'histoire des Noirs. Situation exceptionnelle, programmation exceptionnelle en cette année de pandémie. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, pouvez-vous brièvement nous décrire, nous donner un aperçu du profil des Noirs qui vivent à Québec? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs principales caractéristiques, leurs contributions au développement de la société québécoise? Et quelle est la nature des liens qu'ils nouent avec les principales institutions du Québec?
Merci beaucoup de m'accueillir sur votre station, c'est tout un honneur. Votre question est extrêmement précise. Écoutez, nous avons une majorité de Noirs vivant dans la ville de Québec qui sont bien évidemment francophones. Une bonne partie vient d'Afrique de l'Ouest pour le cas des étudiants. On a eu dans les années 90 une vague migratoire composée aussi de réfugiés venant d'Afrique centrale. dû à la guerre civile au Rwanda, puis à la guerre au Congo en 96 et en 2000. Mais depuis une vingtaine d'années, essentiellement, c'est une immigration estudiantine, une immigration économique que l'on rencontre. Alors, on retrouve beaucoup les expertises afro-noires et africaines à Québec dans certains secteurs d'activité, notamment dans le domaine de la finance. Donc, on a quand même beaucoup de conseillers financiers, planificateurs financiers, travaillant dans les institutions financières. Nous avons aussi une très bonne majorité qui travaille dans le domaine informatique. Alors, la particularité, c'est que beaucoup d'entre eux ont fait un transit par l'Europe, où ils ont fait leurs études, où ils ont commencé leur carrière professionnelle pour ensuite s'expatrier au Québec. Donc, on a beaucoup d'informaticiens. Et puis, bien évidemment, on a quelques juristes et puis quelques personnes aussi qui s'impliquent au niveau politique. Donc, on a eu notamment un candidat pour la lors des élections municipales. On en a aussi un pour les élections fédérales à la députation. Donc, rapidement, ce sont les profils qu'on rencontre. Et puis, bien évidemment, on a une bonne partie majoritairement des femmes, même si c'est pas le cas de la majorité, bien évidemment, des femmes noires à Québec, mais on a une partie qui travaille dans le domaine de la santé. Mais sinon, essentiellement, ce sont des techniciens, des informaticiens que nous avons.
Alors, je rappelle aux gens que selon le dernier recensement, la ville de Québec compte 6,4% de sa population qui se définit comme minorité visible, dont 2,4% de Noirs. Mais la ville, je pense que la police de Québec a de la difficulté, hein, de recruter des Noirs. J'ai vu ça dans un article de journal l'année dernière. Comment expliquez-vous ce phénomène que les policiers n'arrivent pas à recruter des Noirs dans son service?
Je pense que la ville de Québec a une particularité, c'est que, comme vous le mentionnez vous-même dans vos chiffres, c'est que la communauté afrodescendante est très petite, premièrement. Et deuxièmement, comme je vous le disais, ce sont vraiment, quand on compare à l'échelle de l'histoire des migrations, ce sont des migrations qui sont quand même relativement récentes. Et les immigrants, lorsqu'ils arrivent, viennent soit pour des études, donc il y a peu qui vont aller prendre des cours pour être policiers, parce que c'est pas un champ d'intérêt. Ils vont aller dans des domaines tels que l'informatique, la finance, le droit, etc. Donc ça peut être l'une des raisons aussi. Je sais qu'il y a des démarches qui sont menées depuis l'année dernière, en tout cas dans le discours du moins, de la part de la municipalité pour effectivement pouvoir avoir des représentants des minorités dans les différents corps municipaux, y compris la police. Pour l'instant, ça ne s'est pas matérialisé. Je pense que c'est le genre d'enjeu qui mérite vraiment beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion pour mieux appréhender les raisons fondamentales.
Alors, vous êtes vice-président de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Il y a beaucoup d'éditeurs ici à Toronto qui se posent la question, est-ce que, bon, à Montréal, on peut y comprendre qu'il se passe beaucoup d'activités et d'événements autour du mois de l'histoire des Noirs. Comment expliquez-vous justement cet intérêt de votre groupe, de vos membres, de lancer, et encore une fois, je vois que vous avez beaucoup d'activités tout au long du mois, qui durent jusqu'au 27 février. Est-ce que le public québécois est friand à ce genre d'événements dans la ville de Québec?
Oui, le mois de l'histoire des Noirs est à sa 6e édition dans la ville de Québec. D'année en année, on grossit. Et je vous dirais que l'année dernière, j'étais aussi membre du conseil d'administration. Ça a été l'année où on a eu le plus d'achalandage d'abord physique. On a choisi un lieu central pour l'organisation de l'ensemble des événements. Il y avait eu aussi une trentaine d'activités. Il y a eu beaucoup de participation des Noirs, bien évidemment, mais aussi beaucoup de gens issus d'autres communautés et de Québécois. Il y a eu par le passé des ententes avec certaines écoles où les étudiants québécois proposaient des activités. Donc l'année dernière, nous avons réussi à atteindre à peu près 80 000 personnes sur l'ensemble du mois de février. Ce n'est pas rien. Cette année, bien évidemment, la COVID faisant, nous avons opté pour une version virtuelle, mais nous tenions quand même à souligner ce mois. Et c'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont proposé des activités. Ça a exigé beaucoup d'innovation de notre part, faire en sorte que l'ensemble des activités qu'on aurait proposées en mode présentiel soit en mode virtuel. Et je pense que c'est un pari qu'on est en train de réussir et surtout d'être en mesure de maintenir l'haleine jusqu'à la fin du mois de février. Alors oui, il y a la majorité des participants actuellement est encore noire, mais on rencontre quand même de plus en plus de gens issus des autres communautés et de la communauté québécoise qui participent à nos activités. Il ne faut pas oublier qu'on s'insère aussi dans un cadre de promotion du vivre ensemble, de la tolérance et de l'affermissement et de la promotion plutôt de l'histoire des Noirs. En cela, on est appuyé bien évidemment par la Ville de Québec, par le ministère de l'Immigration du Québec, par le patrimoine, par Patrimoine Canada. Ce sont des activités qui, à Québec, sont en train vraiment de s'enraciner et de devenir une référence pour le mois de février. Pour votre information, par exemple, pour le lancement de cette année, nous avions la ministre des Relations internationales du Québec qui était présente, qui a fait un discours en virtuel. On avait le consul de France, on avait la consul des États-Unis, on avait plusieurs députés aussi, notamment le ministre Duclos du fédéral, qui a aussi fait un discours. Donc on est vraiment en train au fil des ans, de devenir vraiment une tradition ici à Québec.
Alors, le Centre Rire 2000, d'ailleurs, on était là l'année dernière, hein, chaque année, on parle de vous, comme vous le savez. Alors, parlez-nous un petit peu, justement, du Centre de Rire, brièvement, et aussi ce jeu concours, les gens peuvent gagner jusqu'à 100 $ de bourse, je pense.
Alors, le Centre Rire 2000 est un partenaire historique, hein, c'est un organisme qui œuvre beaucoup pour les communautés immigrantes et les communautés noires à Québec, et cela depuis une vingtaine d'années. Je profite de l'occasion pour saluer M. Tsonga. Alors effectivement, il y a un jeu concours qui est prévu durant tout le mois. Il se termine le 26. Alors pour en savoir comment on appelle ça davantage, je vous invite à visiter le site du mois de l'histoire des Noirs à Québec dans l'onglet programmation. Mais le jeu concours vise vraiment à faire découvrir l'histoire des Noirs. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées, et moi j'aime ça, ce genre de quiz là qui permet vraiment de nous creuser un peu les méninges et de se challenger avec d'autres personnes.
Oui, alors il y a des capsules aussi que les gens peuvent visionner. Bravo, félicitations, c'est du beau travail. Alors parlez-nous rapidement, le 14 justement février, de 10h à 18h, vous avez la journée Cheikh Anta Diop, colloque étudiant. Et alors parlez-nous un petit peu de ça, il y a plusieurs invités hein, qui y participent. Donc, qui sont les partenaires?
Oui, le 14 février, effectivement, on a la journée Cheikh Anta Diop. C'est un scientifique africain d'origine sénégalaise qui a fait beaucoup d'études au courant du XXe siècle. Et il y a eu deux événements à Cheikh Anta Diop. On en a eu un hier matin en direct de Dakar. Donc, nous travaillons notamment avec Madame Fall, qui vit ici à Québec, qui est une ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, et l'événement événement, nous avons effectivement le second événement. Donc, comme je le dis, pour les détails des événements, j'invite vraiment à visiter la plateforme du mois de l'histoire des Noirs.
Oui. Alors, parlez-nous des autres activités qui vont marquer ces célébrations qui se terminent le 27 par une grande soirée de fermeture, de clôture. Alors, quelles sont les autres activités clés que vous suggérez à nos auditeurs?
Alors, vous savez, la thématique centrale cette année, c'est leadership des Afro-descendants et engagement politique. Deux points, jeunesse et développement durable. On a voulu miser sur la jeunesse et puis sur les enjeux d'avenir, donc les changements climatiques. À travers cette thématique principale, nous avons trois axes thématiques. Donc, il y a l'histoire, mémoire et citoyenneté. Donc, il y a des activités qui rentrent dans le cadre de cet axe. Ensuite, le second axe, c'est jeunesse afrodescendante. Arrêter de chercher, mais s'autoriser à prendre pleinement sa place. Et le troisième axe, bien évidemment, c'est l'art, la culture et le sport. Alors, si on revient parmi les événements clés, on a par exemple la conférence des Détox. C'est une conférence qui aura lieu mercredi, le 10. C'est une conférence sponsorisée donc par la Banque TD et où on parle vraiment d'entrepreneuriat afrodescendant dans la ville du Québec. C'est en train de devenir, comme la journée chez Kanta Diop, une tradition dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc c'est vraiment une soirée d'impact axée sur les clés du leadership de la jeunesse au niveau professionnel et dans le monde des affaires. Alors, nous avons aussi prévu deux concerts virtuels, un le 20, un autre le 27. Alors, celui du 27, c'est avec M. Zaï Sissoko, donc ça sera de la musique mandingue. M. Zaï Sissoko est originaire du Sénégal. Nous avons aussi la nuit des contes et légendes africains, donc pour les jeunes, où on a plusieurs conteurs venant de Québec, mais aussi d'ailleurs, qui viennent promouvoir un peu cette tradition africaine-là que nous avons tous connue lorsque nous étions jeunes, lorsque les plus grands nous contaient des histoires du lointain passé africain. Ensuite, on a aussi un autre événement, c'est les enjeux de l'engagement citoyen dans les communautés culturelles au XXIe siècle. Je pense que l'année dernière, avec l'assassinat de George Floyd et de Madame Ekachuan, ça nous ramène vraiment à l'importance de l'engagement des communautés culturelles dans des sociétés qui sont de plus en plus cosmopolites, de plus en plus métissées et où tout le monde doit pleinement jouer son rôle et prendre sa place. Nous avons aussi le carnaval des enfants qui aura lieu en partenariat avec Madame Sabine Montpierre. Ça, c'est nous l'avions réalisé hier, donc c'était un événement qui permettait vraiment de faire découvrir la Guadeloupe. Et puis il y a un autre événement que je souhaite mentionner, c'est la conférence jeunesse autochtone et afrodescendante de Québec. Même est-ce que c'est nous avons les mêmes combats? Donc là nous allons avoir quatre jeunes afro-descendants et quatre jeunes autochtones qui, de 18h à 19h30 le mardi 16 février, vont débattre de leur réalité, des enjeux, des enjeux, des défis qu'ils rencontrent en tant que jeunes issus de ces communautés-là. Donc, vous le voyez, nous avons vraiment voulu avoir une programmation riche qui touche à la fois la culture, l'art, mais qui permette aussi d'amener des réflexions profondes dans le monde dans lequel on et qui permettent de promouvoir aussi l'entrepreneuriat.
Et je rappelle aux gens que vous pouvez avoir accès à toute cette programmation exceptionnelle sur histoiredesnoirsquebec.com. D'ailleurs, le concert du 27 février sera diffusé en live sur la page Facebook, n'est-ce pas?
Tout à fait. Les deux concerts, celui du 27 et celui du 20, seront effectivement diffusés sur notre page Facebook. C'est un concert qui est organisé par l'un de nos partenaires, Mondo Carnaval. Oui, effectivement, ça va être des concerts live. Ce sont deux artistes qui ne sont pas à Québec, donc ça, c'est un autre défi technologique qu'on va chercher. Mais c'est tout le plaisir, effectivement, pour nous de pouvoir apporter de la joie dans ces moments extrêmement difficiles de COVID. Et je pense que en 2021, pour ce qui est du Québec, il n'y a pas encore eu un événement majeur qui s'étale sur une période aussi aussi longue, incluant des concerts virtuels. Donc, c'est vraiment un pari que nous voulons gagner. Nous sommes très heureux du déroulement actuel.
Et pour les gens qui nous écoutent à l'étranger, surtout en Afrique, parce qu'ils sont nombreux, c'est en plein hiver, il faut bien le dire. On est en plein hiver au Québec.
Absolument. Aujourd'hui, nous avons moins de 17 à Québec.
Alors, vous savez, c'est tellement intéressant de parler avec vous et c'est tellement intéressant d'avoir une voix du Québec pour parler des réalités des personnes d'ascendance africaine. Et vous-même, Monsieur Saliou Diallo, vous comptez plusieurs années d'expérience en finance et d'engagement en faveur du développement durable. Vous êtes diplômé d'un master de droit international public à l'Université d'Aix-en-Provence. Vous faites des choses tellement intéressantes. Vous avez siégé sur plusieurs comités. Vous avez même une maîtrise en développement international de l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval à Québec. Vous êtes aussi très engagé dans le domaine de changement climatique. Vous avez cette société Iroko, qui est une entreprise libérale à vocation sociale et environnementale et une référence en e-environnement pour la mise en disposition de solutions numériques personnalisées. Vous faites des choses tellement intéressantes, mais comment se fait-il qu'on vous voit pas, on vous entend pas tout au long de l'année? Qu'est-ce qu'on peut faire au Canada, dans nos médias, pour que des voix comme la vôtre soient plus entendues et plus vues à la télévision et dans nos médias?
Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des choses intéressantes dans le quotidien qui mériteraient d'être plus vus. Alors, moi, en ce qui nous concerne, notamment avec mon entreprise Iroko, on a eu quand même la chance. Iroko, c'est la première application mobile au monde qui permet à chaque citoyen à travers la planète de mesurer son empreinte carbone et de planter des arbres dans plusieurs pays, donc en Ontario, au Québec, au Guatemala, au Pérou et en France. Notre vocation, c'est d'étendre nos zones de reboisement à l'ensemble des pays, à l'ensemble des continents. Donc l'application est disponible en anglais, français, espagnol, portugais, arabe et chinois. Et lorsque nous avons lancé la version 2 de notre application mobile, nous avons quand même eu plusieurs passages dans des médias francophones. C'est vrai, on n'a pas eu d'opportunité d'être présent dans des médias anglophones, mais on a été à Radio-Canada, Le Soleil, etc. Par la suite, on a été aussi invité à deux reprises aux Nations Unies, à la COP 24 à Katowice et puis à la COP 25 à Madrid. On a pu présenter notre modèle et on a même été lauréat dans la catégorie innovation jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, on a quand même cette opportunité de faire porter notre voix, mais oui, effectivement, étant donné que c'est une thématique qui quand même intéresse plus de 80% des Canadiens, il faudrait être plus entendu et avoir plus de place dans les médias. Et nous travaillons pour que ça soit une réalité, mais c'est pas toujours évident.
Mais en tout cas, vous avez une voix à notre radio. Quand vous le voulez, vous nous envoyez un petit courriel et puis ce sera fait avec plaisir. Alors, vous êtes vice-président de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs du Québec. Je demande aux gens d'aller tout de suite sur votre site histoiredesnoirsquebec.com et nous allons en parler tout au long du mois. Monsieur Saliou Diallo, c'était tout un honneur, tout un bonheur de vous recevoir à l'antenne. Je vous souhaite bonne chance, bon succès à vous et votre équipe et que la force soit avec vous.
Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue tous vos auditeurs et ce sera avec un grand plaisir de revenir sur votre radio.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Merci.
Arrêtez la propagation de la COVID-19. Évitez de mettre les autres en danger en restant chez vous si possible. Il est temps d'agir. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau coronavirus.
CIUT 89.5, Toronto.
À l'occasion de la 34e édition du mois de l'histoire des Noirs, CUTFM vous présente une édition spéciale
chaque dimanche de 11h à 13h, heure de Toronto, depuis le studio virtuel de Popori Show. Chaque dimanche, un CUTFM vous ouvre ses archives sonores. Vous pourrez entendre les défricheurs de savoir et de nombreux invités au reportage, les grandes voix de la littérature africaine et antillaise. Gagner des cadeaux en participant à nos jeux concours. Nous rendrons hommage aux oubliés de l'histoire et aussi à ceux et celles qui militent pour la justice sociale. Après les manifestations « La vie des Noirs compte » en 2020, qui avait déclenché une profonde vague de colère à travers le pays, où en sommes-nous aujourd'hui ? Chaque dimanche, les inventeurs et savants noirs, occultés par l'histoire, racontent leur parcours, leurs émotions, les réussites inspirantes qui ont structuré leur existence. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, du 7 au 28 février 2021. Célébrons la 19e édition du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau, sur le thème « Une lutte aux mille visages » et la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, un événement qui célèbre la richesse culturelle, artistique, culinaire des communautés noires et afrodescendantes. Cette année, il n'y a pas d'excuses pour personne, car toutes les activités sont gratuites et se déroulent uniquement en ligne. Retrouvez tous les liens de nos partenaires et invités sur popourishow.com. Du 7 au 28 février, une lutte aux mille visages. Des émissions présentées par CUT-FM en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, France Inter, la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville du Québec, le mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Du 7 au 28 février, où que vous soyez sur la planète, soyez au rendez-vous sur CUT 89,5 FM ou découvrez la programmation complète du mois sur popourishow.com. Toute l'équipe de la radio vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs. Ce dimanche à des invités inspirants. La Fondation Sylvie Nélin d'Or, un organisme à Toronto voué à l'intégration des jeunes noirs, célèbre en cette année son 10e anniversaire. Le fondateur et président, Ami Clé Fontaine, exprimait récemment sa gratitude envers ses mécènes, commanditaires, supporters, bénévoles, partenaires médiatiques, partenaires communautaires, conférenciers. Et il dit, je cite, « Cela a toujours été un effort d'équipe et nous considérons que tous ces individus et ces groupes font partie de notre incroyable équipe. » D'ailleurs, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la Fondation Sylvie Nélin d'Or vous propose une séance rendant hommage à Viola Desmond, femme noire reconnue pour son activisme contre la ségrégation raciale. Cette séance sera en mode virtuel via la page Facebook de la Fondation Sylvie Nélin d'Or. Rendez-vous le samedi 20 février à 19h. Voilà une belle occasion pour souligner la contribution de cette femme, Viola Desmond, pour ses 75 ans de résistance, mais aussi les 25 ans du mois de l'histoire des Noirs. En effet, il y a 25 ans, le gouvernement du Canada instaurait au pays le mois de l'histoire des Noirs, un tournant largement attribuable aux efforts de l'honorable Jean Augustine, la première femme noire à être nommée au cabinet fédéral. Et puis, ce sera l'occasion de célébrer les 10 ans de la Fondation Sylvie Nélin d'Or. Parmi les invités panélistes qui ont confirmé leur présence pour la séance du samedi 20 février, l'avocat Joël Étienne, docteur Rosemary Sadlier, ancienne présidente de la Société de l'Histoire des Noirs de l'Ontario, docteur Dieufait Bello, Jean-Marie Vianney, PDG de M9 Media, Ami Clé Fontaine sera le facilitateur. Comme vous le savez, il est le président de la Fondation de Sylvie Nélin d'Or. Et puis, il y aura un invité assez formidable. Je trouve qu'il mérite d'être connu à l'émission. Et il sera d'ailleurs notre invité un peu plus tard, Franz Benjamin, un homme engagé sur la scène publique. Il est député de Vieux à l'Assemblée nationale du Québec. Il sera donc à nos micros un peu plus tard.
Malgré la pandémie, les membres de la communauté noire partout au Canada s'unissent pour nous présenter une programmation exceptionnelle. La province de Québec est au rendez-vous. Ça fait 30 ans que le mois de l'histoire des Noirs est célébré à Montréal sous l'égide de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, tandis qu'à Québec, cela fait 6 ans déjà. La table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec nous émerveille encore une fois cette année avec une programmation en ligne, gratuite et ouverte au public. Et oui, retrouvez toute la programmation sur histoiredesnoirsquebec.com. Et aujourd'hui, Popourri Show a le grand plaisir de recevoir M. Saliou Diallo. Il est le vice-président de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Le racisme anti-noir est répandu dans la société canadienne et la fonction publique fédérale n'y échappe pas. Près de 30 000 fonctionnaires actuels et anciens qui s'identifient comme noirs ont déposé un recours collectif contre le gouvernement du Canada il y a quelques mois. Ils se disent victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi. Pensez-vous que cette action va changer la donne? C'est la question que j'aimerais bien poser à mon invitée de la région d'Ottawa-Gatineau, Madame Olive Kamanyana. Elle est présidente de Leaderpol Leadership Politique pour les personnes d'ascendance africaine, un nouvel organisme partenaire du mois des Noirs à Gatineau. Et pour rien au monde, vous ne devez pas manquer cette édition spéciale de Festive Ebène et Aurore, un jour nouveau, une lumière nouvelle. C'en est le thème, mettant en vedette plusieurs artistes africains. Le rappeur poète Yao y sera. Rendez-vous à ne pas manquer, madame, monsieur, ouvert à tout le monde et que vous pourrez suivre sur Zoom le 28 février à 19h. Vous trouverez le lien sur notre site popourrichaud.com. Cet événement est organisé par Sophie Franc, un organisme communautaire sans but lucratif créé en 2006 par des femmes immigrantes francophones du Niagara en Ontario. Et puis je vous rappelle que nos amis le CREFO vous invitent à sa prochaine conférence qui aura lieu mardi prochain le 16 février à 17h. Le tout se passe en ligne, bien sûr. Le thème de cette conférence, les dimensions socio-langagières des dispositifs scolaires destinés aux jeunes gens du voyage par Eurel Latimier, les docteurs en sciences du langage. Eurel Latimier travaille depuis une quinzaine d'années dans les champs artistiques comme universitaire. La question du langage dans ses dimensions poétiques, esthétiques et politiques. Après de nombreuses années en tant que travailleuse socio-éducative, elle a mené un travail de recherche sur les liens entre production langagière et inégalité sociale au sein de dispositifs scolaires principaux auprès de la population considérée gens du voyage. Elle a interrogé dans sa thèse les mises en discours de l'exclusion et de l'échec scolaire comme production politique de l'assujettissement. L'école républicaine française, dit-elle, construit des dispositifs spécifiques dédiés à une population particulière et fournit une explication culturaliste à des problèmes pédagogiques. En quoi, par qui et pourquoi ces discours, que ce soit historiques, institutionnels et par les concernés eux-mêmes, sur l'école et dans l'école, créent de la différence sociale? Quels sont leurs effets? Elle présentera dans cette conférence les processus langagiers et institutionnels qui construisent la marginalisation scolaire des jeunes voyageurs et les positions subjectives que ces derniers adoptent au sein de la classe. Donc, les dimensions socio-langagières des dispositifs scolaires destinés aux jeunes gens du voyage par Eurel Latimier, docteur en sciences du langage, le mardi 16 février de 17h à 18h30 par vidéoconférence ou Zoom si vous préférez. Vous devez absolument vous inscrire, vous devez vous connecter sur Eventbrite ou encore aller sur le site du CREFO ou popourrichaud.com. Édition spéciale, le mois de l'histoire des Noirs, sur CUT 89,5 FM. Toute la diversité du monde sur votre fréquence. Et oui, c'est la dernière heure de notre édition spéciale, une occasion pour rencontrer l'invité de l'histoire.
informer, décrypter, raconter. Et aujourd'hui, nous faisons place à un nouveau partenaire, Télésud, la chaîne d'information internationale qui raconte et décrypte l'actualité de manière constructive. Télésud est une chaîne de télévision généraliste à destination du monde africain, fondée en 1998 et basée à Paris. Le 10 janvier 2012, le professeur et écrivain très connu Alain Mabankou affirme sur France Inter dans l'émission Le Livre du Jour « L'avenir de l'homme noir, c'est de se dire qu'il se construit là où il vit. Moi, si je vis dans un pays, que ce soit en France ou aux États-Unis, j'essaie d'intégrer dans mon esprit que mon destin se construit au présent. Du noir à l'africain, histoire d'une identité. » L'invité de l'histoire, le magazine Télésud, qui reçoit un très jeune écrivain, éditeur et philosophe, Amouna Inoubimba. Du noir à l'africain, histoire d'une identité, Amouna Inoubimba. Écrivain, éditeur, nous décrypte ce qui se cache derrière l'identité de l'homme noir africain.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre dernière émission de la saison. Autant vous le dire, on va se quitter quelques semaines. Inch'Allah, comme dirait quelqu'un de cette maison, qui était resté très très populaire et à qui on pense. Parce qu'à la fin de la saison, on se prépare à des saisons nouvelles. Enfin bref, on va garder le tempo. L'invité de l'histoire, ça a été le concept tout au long de cette année, où on est allé un petit peu comprendre notre histoire, l'écrire avec nos mots, avec nos experts à nous, sans contrefaçon, mais avec des argumentaires très très solides. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un personnage. Il ne s'agit pas d'une révolte qui s'est déroulée ça ou là, non. Il s'agit d'un concept. Mon invité, il est jeune, mais il est allé creuser. Il est jeune, mais vous savez, aux Zambianais, c'est bien connu. Je vous résume la quatrième de couverture. Cela peut paraître de nos jours surprenant, mais les mots noir et nègre désignent avant toute chose et en réalité les populations eurasiatiques dites abusivement blanches de peau aujourd'hui. En effet, noir et nègre, deux mots signifiant la même chose, qualifient historiquement et socialement parlant l'eurasiatique esclave de naissance ou fait esclave. On va creuser. On pensait que ça s'adressait uniquement à nous, mais notre invité semble avoir des arguments. Il ne semble pas. Il les a. Il a même pondu un opus. C'est celui-là. Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Il s'appelle Amouna Ngonimba. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Mbarga.
Bonsoir. Vous êtes jeune. Derrière votre clavier, je m'attendais à un papa.
Du tout.
Du tout, parce que au cours de mes pérégrinations comme ça sur la toile, je rencontre des œuvres. Et à chaque fois que je revenais vers vous, je lisais. Je lisais ce que je pouvais lire, je disais, mais où c'est qu'il va chercher tout ça? Et j'étais sûr d'avoir un homme, mais j'ai un jeune homme, mais sans doute qui a la main, qui a été adoubé par les ancêtres.
Je l'espère.
Vous l'espérez. Vous venez de quel pays ?
Du Congo-Brazzaville.
Qu'est-ce que vous faites précisément et qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce genre de recherche ?
Mais en fait, je suis auteur et éditeur en même temps. D'accord. Donc, je suis éditeur pour le compte de la maison d'édition Amouna Unganga.
Qui porte votre nom ?
C'est ça. Donc, c'est la maison d'édition que j'ai montée. Et je suis également membre d'un centre de conception du devenir de l'Afrique. Donc, nous travaillons sur les questions de la Renaissance africaine. Et nous travaillons également sur tout ce qui est concept et armes de domination mentale. Donc c'est ce que nous avons réservé sous le vocabulaire de la plantation. C'est-à-dire que c'est un ensemble de concepts qui, de premier abord, comme on va le voir avec le terme noir, peut paraître naturel et normal, alors que derrière se cache autre chose.
En dehors de vos recherches sur les questions historiques qui touchent à votre continent, Quel est votre parcours au niveau classique avant tout ça? Qu'est-ce qui vous a conduit ensuite vers ces recherches-là?
On va dire au niveau classique, j'ai fait des études de droit privé. Et après, j'ai eu à découvrir mon histoire à travers Internet, par exemple, à travers des lectures. Et là, je me suis passionné pour mon histoire que j'ignorais, comme bon nombre d'Africains aujourd'hui ignorent leur propre histoire. Et donc, c'est ce qui m'a amené à creuser jusqu'à découvrir des trésors insoupçonnés et inimaginables.
Vous venez du Congo-Brazzaville.
C'est ça.
Que vous connaissez bien.
Ah oui.
Oui, très bien. Parce que c'est toujours important. On va nous dire, mais c'est un petit blanc qui nous a écrit là. Mais vous allez nous faire comprendre tout à l'heure que blanc et nègre, finalement, ces mots, ils ont des significations très différentes au cours de l'histoire. On va faire une petite virgule pour vous présenter plus calmement. Vous avez apporté un certain nombre de photos qui vous présentent dans des situations, des travaux. Et très rapidement, on rentre dans notre discussion. On va faire. Il n'y aura pas beaucoup de cérémonies aujourd'hui. D'accord. Je vais vous laisser parler parce que vous avez argumenté pour votre passage ici, parce qu'on est très sollicité, d'une manière qui était tellement fluide, tellement soutenue que je me suis dit, bon, je reste tranquille, je l'attends sur le plateau. D'accord ? Petit jingle, on vous présente et on rentre dans le débat tout de suite. On va voir quelques-unes des photos que vous nous avez amenées de vous-même. Ce sont d'abord des photos de vos ouvrages. Vous allez nous les expliquer, les résumer hein, très très rapidement chacun. Donc ce livre-ci, qui sera la trame finalement de cette émission, en deux mots, vous parlez de quoi ?
En deux mots, je parle de la question de l'identité. Parce qu'il est très important pour tout peuple de se définir et de définir son identité à partir de sa réalité culturelle, à partir de sa propre langue et finalement à partir de ses propres enfants.
D'accord. Et vous avez écrit d'autres livres également sur l'excision, par exemple.
Oui, en fait, également, c'est sur l'excision. On révèle les origines de l'excision. On a souvent véhiculé l'idée comme quoi ça fait partie d'une coutume africaine, alors que dans nos recherches, nous nous sommes finalement aperçus que l'excision, une fois de plus, ce n'est pas africain, mais c'est quelque chose qui a été apporté en Afrique durant les périodes coloniales.
Vous avez d'autres ouvrages parus ou à paraître ?
Oui, paru, il y a un ouvrage qui s'intitule Dounamé. En fait, dans cet ouvrage, nous parlons de la tradition africaine de façon générale. Donc l'histoire de l'Afrique, des origines à nos jours. On dit que c'est le berceau de l'humanité. Donc nous sommes allés questionner les gardiens de notre tradition, qu'on appelle couramment Djeli ou Griot de façon abusive. Et donc nous avons découvert des choses hallucinantes sur notre propre histoire qu'on ignore très souvent.
Et vous remontez jusqu'à 100 000 ans. C'est quoi vos sources ?
Alors les sources, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, les djeli, et il y a également des sources écrites, par exemple, on remonte avec le bâton d'Ishango. C'est oui. Le premier bâton mathématique trouvé.
Il y a 22 000 ans ou...
Ça, c'est 22 000 ans. Alors que quand on questionne donc, les gardiens de notre tradition, ils disent que le premier bâton daté, écrit, remonte d'il y a 90 000 ans. Donc on voit que les informations données par, entre guillemets, la science actuelle, et celles conservées par notre mémoire historique.
Mais comment ils peuvent dater oralement sur une distance aussi importante ?
Alors, il faut savoir que les djeli, par exemple, ils sont entraînés à emmagasiner une information. Ce sont des greniers, comme on dit, des greniers sémantiques. Donc, c'est leur travail, c'est vraiment leur profession en tant que tel, d'historien, d'emmagasiner toute cette information-là. Et il y a également la langue. Donc, la démonstration se fait également à partir de nos langues. Les mots de nos langues qui nous disent par exemple que chez nous, le mot modernité, ça date d'il y a 100 000 ans justement, et ça s'appelle Issamamé.
Donc dans une langue dans proche une de laquelle langue... aujourd'hui en Afrique.
Voilà, c'est dans l'évé classique.
L'évé qui voilà. Nous vient du côté du Togo notamment, ouais. Togo, Bénin et une partie au Nigeria même. Très bien. Donc on va arriver à notre thème d'émission même. Mais avant cela, expliquez-nous un peu quelles sont vos recherches par rapport à la Renaissance africaine, parce que vous avez l'air d'un agneau comme ça, mais vous êtes un vrai samouraï. Vous travaillez contre les techniques de domination mentale, les armes de domination mentale, etc., etc. En un mot, de quoi il s'agit ?
En fait, il y a deux volets. Il y a le volet de la Renaissance, ce qu'on appelle Renaissance africaine. Donc, en Medouneter, qui est la langue pharaonique, on parle de Ouem Mesout, qui signifie le renouvellement de naissance. En fait, quand un peuple en vient, entre guillemets, à tomber, à s'écrouler, à péricliter, il arrive un moment où il se remet en question pour apporter un renouveau dans sa culture, un renouveau dans son idéologie de façon générale. Et donc, dans l'ouvrage intitulé Dounamé, nous traitons également de cette question de la Renaissance. Nous apportons des solutions concrètes pour la construction de cet État fédéral africain dont tout le monde rêve. Nous apportons la constitution, l'hymne national, le système économique, le système politique. Et donc, c'est en fait tout ça qui est englobé par le concept d'Ouem Mesout. Et le second volet, c'est le volet des armes de domination mentale. Donc, par exemple, le terme de noir, on va se rendre compte que c'est plus une arme de domination mentale qui est faite pour assujettir des peuples, dominer des peuples mentalement.
On va rentrer dans le vif du sujet. On a pris le temps hein, de se poser parce qu'après, ça va être plus dense. J'aimerais que vous preniez le temps d'expliquer. On a du temps, nous ne sommes que deux. Ça va être plus dense. On va prendre le temps d'abord en partant du titre de l'émission qui s'est voulu, comme d'habitude, très très un résumé, un condensé. Du noir à l'africain. L'histoire de la construction d'une identité, finalement, et d'un imaginaire africain. C'est ça le sous-titre qui est en filigrane de notre questionnement. Ce qui revient à dire que ces notions, vous les interrogez, oui. Vous les, comment dirais-je, vous les récusez, comme on pourrait dire en droit, vous les récusez, ce qui peut se comprendre, parce que c'est un imaginaire qui a été construit par d'autres.
Effectivement.
Nous sommes bien d'accord. À partir de quel moment les termes africains, nègres, esclaves sont utilisés en Afrique. Et je vous pose une deuxième question pour vous laisser le temps de poser votre réflexion. Et comment les Africains s'imaginaient et s'appelaient eux-mêmes? Je pose les deux questions ensemble pour qu'on sente le moment de la césure. Prenez votre temps, allez-y.
Alors déjà, je vais commencer par la première question. Donc d'où viennent le mot nègre, noir? C'est la même chose en fait. Je crois qu'il faut remonter déjà à la signification réelle de ces mots, parce que là, on parle en langue française. Et on va se rendre compte que quand on fait des recherches, quand on questionne justement, parce que le rôle de l'historien, c'est comme celui du psychiatre ou du psychologue. Quand le patient est malade, il vient voir le médecin, le psychologue ou le psychiatre, et le psychiatre lui pose des questions et cherche à savoir d'où remonte son mal. Donc nous, c'est ce travail que nous avons essayé de faire avec le mot noir et nègre. Donc en anglais, ça donne « black » ou « nigger ». Donc c'est les mêmes choses. Il y a des variantes dans les langues arabes, etc. etc. Donc, que signifie le mot « noir » ? Le mot « noir » a deux sens. Premièrement, il désigne une classe sociale des personnes asservies.
À quel moment ?
En Eurasie. Parce qu'il faut savoir que le mot « noir » prend sa naissance, sa racine en Eurasie. Donc l'Eurasie, c'est l'Asie, les pays asiatiques, l'Europe, tout ce que l'on appelle le monde indo-européen. Donc le concept de noir tel qu'on entend aujourd'hui...
On est à quelle période là où,
Dès les départs. Dès les départs, donc c'est pourquoi il faut expliquer avec pédagogie justement. Le système social, enfin ce qu'on appelle le mode de production, l'organisation sociale des pays eurasiatiques est fondamentalement basée sur un système esclavagiste. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories sociales principalement dans la société. Il y a la première catégorie des nobles. Ça, c'est le petit nombre de la population, donc ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, l'élite, et qui impose son point de vue au reste de la population. Donc le reste de la population, le bas peuple, comme on dit aujourd'hui, c'est cela qu'on qualifie de noir. Non, noir, pourquoi noir? Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas l'aisance des nobles, et les nobles, c'est ce qu'on appelle les blancs, justement. Ils sont appelés blancs parce qu'ils sont cultivés, ils sont riches, et ils ont tout le faste qui va avec. Et entre le blanc et le noir intervient une troisième couleur, c'est le rouge. Le rouge, c'est en fait la classe sociale, ou on peut dire caste, des guerriers, de ceux qui vont à la guerre pour le compte des blancs. Et en cas de révolte, par exemple, du bas peuple, ce sont les rouges, donc les guerriers, les soldats qui vont mater le peuple. Et c'est pourquoi vous verrez d'ailleurs que la couverture de l'ouvrage, vous avez le blanc, le rouge et le noir. Donc ça illustre ces trois classes sociales. Donc le noir signifie... C'est la couleur qui désigne en fait cette classe sociale des pauvres, du bas peuple, des personnes asservies.
Sans vouloir vous interrompre, mais juste pour une précision. Oui. Est-ce qu'il y a un exemple précis d'une civilisation, d'un empire, d'un royaume que vous pouvez mettre en exergue pour illustrer cela? C'était pratiqué ainsi dans quel royaume, dans quel empire par exemple?
D'accord, ben, on va en venir. Donc je clarifie d'abord le concept et je vais donner des exemples plus tard. Donc, il y a ce concept, déjà, il faut se mettre en tête que le mot noir signifie esclave. Donc c'est le bas peuple, en fait, qui était martyrisé par la population. Il faut savoir qu'en Eurasie, en Grèce, par exemple, on était soit homme libre, soit esclave.
Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas ces termes. Eurasie, Expliquez-lui ce que c'est.
L'Eurasie, c'est la population aujourd'hui qu'on appelle blanche ou jaune. Donc l'Asie.
Et qui, il y a plusieurs milliers d'années, s'étendait pas seulement en Europe, mais
en
partait
Asie,
de l'Asie.
De l'Asie, voilà.
L'Asie actuelle.
Donc c'est toute l'Asie, de l'Asie actuelle, justement. On va voir le cas de la Chine, par exemple. Il y a l'Asie, il y a les Sémites. Les Sémites sont composés par les Juifs et les Arabes, donc les Hébreux. Et il y a les Européens, et les Afro-Européens, descendants comme les Américains, etc., etc. Donc c'est cela qu'on appelle indo-européens, donc il y a les Iraniens, les Irakiens, etc. Donc c'est cela qu'on catalogue dans le concept d'Eurasie.
D'accord, indo-européens.
Voilà.
Et oui, malheureusement, c'est ainsi que prend fin notre émission spéciale, aujourd'hui dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Merci de votre fidélité. Merci d'être au rendez-vous à chaque dimanche. Je tiens à remercier tous les invités, les partenaires. Merci à DJ Duvera et Maître Peter Bureau à Toronto. Ici Eric Kader, je vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs. Bon dimanche et bonne semaine. Prenez soin de vous, que la force soit avec vous. Je vous laisse avec un air carnavalesque en direct d'Haïti.
Vice Touquet 2021, remix. Chaque année, on va pour chômer. Nous seuls passons ça t'a changé.
pas.